Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver hein. Comme tous les lundis, 19h, 20h30, alors c'est l'été, et ben on va se mettre effectivement au goût de la saison. On attaquera cette première partie d'émission en parlant surf, et oui, on peut faire du surf sur Paris, on va vous le prouver avec notre premier invité, Stan Frève, qui est directeur du Centre VEV de Paris. Bonsoir Stan.
Bonsoir.
Ça va, pleine forme ?
Bah ouais, hein, top.
Donc on peut faire du surf sur Paris. Hein.
Exactement.
Sur mon Paris FM, on peut tout faire, du ski, du sumo et du surf aussi.
Ouais.
Voilà, très bien. Et puis, la deuxième grosse partie de l'émission, bah, elle sera consacrée à un club voisin. Ils ne sont pas très loin d'ici. On va parler futsal, c'est le Sporting Club de Paris. Bonsoir à Bruno Kobzuk. Ça va, Bruno ?
C'est Benoît.
Benoît.
Benoît, ouais, ouais, ça bonsoir. Va bonsoir, ça va et vous ?
Oui, ça va. Alors, j'ai cru savoir, vous étiez speaker.
Oui.
Ouais,
c'est ça, speaker. Je suis le speaker, bon. On va dire, officiel.
Alors, on aura l'occasion de parler de la saison de votre club. Je sais que,
ouais,
bon, ça se termine comme l'équipe de France de foot, sur une finale perdue.
Ah, oui, sur une finale perdue. Après, on a quand même une belle saison. Donc,
oui, bien sûr.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
On en parlera. C'est un des sports importants hein, dans notre arrondissement, le futsal.
Ah oui,
c'est
oui.
Hein, aussi bien au niveau effectif qu'au niveau, j'allais dire, notoriété. C'est un des sports dont on parle très souvent. Hein.
Oui, c'est très vrai. Bien. Dans le 13e, le futsal est très important.
Alors, comme c'est là aussi l'intersaison foot, on parlera quand même du mercato, hein, puisque maintenant l'actu est en sommeil. Et puis je vous donnerai aussi les résultats du triathlon de Paris, dont on avait parlé il y a 15 jours, et qui s'est donc déroulé hier. Alors Stan, je l'ai dit, on peut aller faire donc du surf sur Paris. D'abord, comment est venue cette idée ?
Comment est venue cette idée ? Bah, c'était en fait, on a créé une vague statique dans Paris, donc une vague en intérieur, une vague indoor.
Mais qui a eu l'idée ? Comment c'est arrivé ?
Alors, c'est le président de la société, Jean-Baptiste Piette, qui avait découvert ce type d'infrastructure, donc de vague statique en Afrique du Sud pendant ses études en 2002. Et il s'est dit, mais c'est génial comme truc, il faut absolument trouver le moyen d'amener ça à Paris. Et après, donc, quelques années, parce qu'il a eu l'idée en 2002 et on a ouvert en 2021, donc après une longue réflexion, on a enfin réussi à ouvrir dans le 15e arrondissement, donc à côté du métro commerce, Wave in Paris, le premier centre de vague de Paris.
D'accord. Ouvert depuis quand ?
Depuin juin 2021.
D'accord, sorti depuis juin 2021. Alors vous êtes, je crois savoir, originaire de La Réunion.
Tout à fait.
Donc naturellement, baigné dans le surf.
Exactement, ouais. J'ai pas mal surfé pendant ma jeunesse et je continue à le faire dès que j'en ai l'occasion. Donc c'était un peu le but pourquoi j'ai intégré cette aventure, c'était vraiment amener un esprit surf.
Vous avez
surf.
Toujours rêvé d'en faire un petit peu votre métier
Non, pas forcément. Alors moi j'ai fait des études dans le sport, donc mon but était de travailler dans le sport.
Bah déjà, c'est déjà une grande première.
Exactement.
C'est déjà une grande avancée. Quoi.
Exactement, donc j'ai toujours voulu travailler dans le sport et travailler donc un peu par passion. Et quand j'ai eu ce projet qui m'a été proposé de créer cette vague de surf, donc cette vague statique en plein cœur de Paris, je me suis dit c'était la bonne occasion d'allier un peu mon passé de surfeur de La Réunion à ma vie parisienne.
Alors, on en parlait hors antenne, il n'y a pas que le surf dans votre vie, il y a aussi le foot, hein, ça fera plaisir
à
notre ami Benoît, hein, vous aimez aussi le foot, et puis je suppose aussi d'autres sports.
Ouais, non, je suis un grand fan de sport de base, donc gros supporter de foot. Et aussi, maintenant, je fais pas mal de sport, notamment du padel, qui est le nouveau sport en vogue ici. Donc, je joue énormément à ce sport. J'essaie de faire de mon mieux.
Alors, quand il y a eu l'idée de monter cet établissement, bon, vous l'avez dit, hein, il y a l'idée en 2002. Mmh. Après, il faut que ça se concrétise en 2021. Le reste, ça s'est passé comment ? On est allé chercher des partenaires, on a été démarché aux portes, on a...
Alors,
Que le projet devienne réalité.
Tout à fait. Donc, nous, la boîte, elle s'est créée pour ouvrir, dans un premier temps, le premier centre de padel d'Île-de-France, indoor. Et après, du coup, donc, Jean-Baptiste Piette, le fondateur de la société, a répondu à un appel à projet de la ville de Paris, de Paris 15. Pour, donc, l'appel à projet s'appelait Paris Terrain de Sport et le but était de mettre en avant des sports peu connus ou peu accessibles des Parisiens.
C'est bien ça.
Donc avec cette vague, on répondait totalement à cette idée-là. Et du coup, en 2017, on a été lauréat de ce terrain dans le 15e arrondissement. Donc voilà, on est en convention avec la ville de Paris. Et du coup, entre 2017 et 2020, bah, il y a eu tout un travail de trouver les financements pour financer ce projet et pour arriver en 2021 avec une ouverture au mois de juin. Et voilà, donc maintenant, on a une quinzaine d'années de convention devant nous pour rentabiliser le projet avant que le bâtiment revienne à la ville de Paris.
Benoît, il faut emmener tout le club là pour faire une sortie de fin de saison là,
pour
récompenser un peu.
Oui,
on va en parler tout à l'heure, une belle saison quand même.
Non, non, ouais. c'est une très belle saison, très belle saison effectivement. Mais oui, non, non, le surf sur Paris, c'est rare, mais oui,
ça
pourquoi
donne
pas.
Un petit,
c'est un avant-goût des vacances.
Voilà. Alors, combien de personnes travaillent sur ce centre?
Alors, on est une quinzaine maintenant, donc entre les managers, l'équipe de com. Toute la partie administrative et du coup 8 personnes qui s'occupent de gérer l'accueil et de faire instructeur sur la vague. En gros, nous, c'est des sessions qui durent une heure, qui sont vraiment ouvertes au grand public. On peut pratiquer dès 4 ans et sans limite d'âge. Chaque session dure une heure et est encadrée par un instructeur. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper accessible. Souvent, on a des personnes qui peuvent se sentir un peu freinées au début, mais on y va vraiment pas à pas pour.
Oui, puis c'est ouvert 7 jours sur 7, le centre.
Hein. Voilà.
La preuve, c'est que je vous ai contacté un dimanche.
Ouais, voilà, on travaille un peu tous les jours. On essaye d'activer comme on peut. On a également dans le centre 4 terrains de squash, donc voilà, ça fait qu'on a vraiment une activité qui, selon les temps de la semaine, va varier. Voilà, on va avoir une ambiance très after work la semaine, le soir, alors qu'on va avoir une ambiance très familiale.
C'est
les
comme
week-ends.
Les terrains de futsal
exactement.
Privé hein, ou des terrains de foot à 5. Hein.
Tout à fait. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet de travailler une clientèle qui est différente et de vraiment s'adapter selon les temps de la semaine. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les week-ends sont remplis d'anniversaires pour les enfants.
On peut penser que c'est là qu'il y a le plus de monde. Hein.
Tout à fait,
c'est
les week-ends, les vacances.
Journalistes, hein. Le sport, c'est plus le week-end. Hein.
Exactement.
Ah, ouais.
Donc ouais, le soir et les week-ends, ça reste nos temps forts, et notamment aussi pendant les vacances scolaires, où on accueille des groupes scolaires, des centres de loisirs, etc. Donc,
Votre centre, il marche 7 jours sur 7, il ouvre à quelle heure le matin?
Alors on a nos premiers terrains de squash qui sont ouverts à 8h45,
oui.
La première session de vague est à 10h, et le soir, la dernière session finit à 22h, et le squash finit à 23h.
Ah oui, donc on peut faire du surf en nocturne pratiquement.
Exactement.
Hein, c'est
exactement. On a l'avantage d'être couvert. Donc on évolue toute l'année dans une eau qui est à 27 degrés, qui permet de se rafraîchir en ce moment avec les températures qu'il fait dehors et se réchauffer du coup en hiver parce qu'on on pratique vraiment juste en maillot. Donc ce qui fait qu'en hiver, on peut lâcher le manteau pour se mettre en maillot le temps d'une heure en plein Paris, c'est pas désagréable.
Alors, on va rappeler la vague, c'est une vague statique, vous pouvez un petit peu en dire un peu plus techniquement.
Ouais. Exactement, donc en fait on a un bassin dans lequel on a 2 moteurs immergés et on va utiliser ce moteur pour projeter de l'eau à pleine vitesse sur une toile tendue, donc c'est comme un trampoline, tout est fait pour pas se faire mal. Cette toile qui a un plan incliné, donc on va jouer entre la pente et la puissance de l'eau pour soit monter, descendre et évoluer sur la vague. Donc on peut évoluer de deux façons, soit en bodyboard, donc une planche qui se pratique du coup allongée ou à genoux, ou soit en flowboard. Donc le flowboard, c'est ce qui va se rapprocher un peu du surf si on généralise la chose, mais voilà, c'est vraiment un sport à part entière qui mélange pas mal de sensations de surf, de snowboard et également de skateboard. On peut reproduire à peu près toutes les figures de skate sur cette vague.
Alors c'est 10 mètres de largeur, 160 mètres carrés d'eau, de pompe, hein, c'est ça hein.
160 mètres cubes,
Ouais, 160 mètres cubes, pardon. Et puis effectivement, 2 pompes. Hein.
Exactement.
Donc ça demande beaucoup d'investissement quand même. Hein.
Ouais, c'était un.
Ouais. C'est jamais en panne, ça marche bien toujours.
Ouais, non, on fait attention. Ouais. On a pas mal de séquences de maintenance pour s'assurer d'avoir une activité qui perdure sur toute l'année. Tout est fait pour amener les meilleures conditions tout au long de l'année sans avoir de belles activités.
Et puis je suppose qu'il y a un aspect sécurité aussi qui est très important, hein, que l'on fait respecter, ça paraît logique, ça paraît normal.
Exactement, en gros il y a plusieurs fournisseurs de ce type de vagues et on a notamment choisi Flowrider qui est le leader mondial parce qu'il propose, c'est le seul à proposer cette toile tendue Là où les autres proposent juste un plan qui est un peu juste rembourré. Mm-hmm. Mais du coup, ouais, ce côté toile tendue, trampoline, assure vraiment une sécurité pour les pratiquants, et ce qui fait que cette vague est accessible dès 4 ans, là où pour les autres fournisseurs, c'est à partir de 8 ans.
Ouais, alors justement, ça s'adresse à tout le monde. On peut venir tout de suite, très jeune, tout de suite s'initier aux joies du surf.
Exactement, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment sur la même, même infrastructure et quasiment aux mêmes puissances, en fait on peut adapter la puissance selon les âges surtout, mais on va pratiquer dès 4 ans, mais aussi sans limite. Voilà, on a des personnes qui ont 65 ans, qui n'ont jamais pratiqué de sport de glisse, et vraiment en 5 minutes, on les allonge sur un bodyboard, et en 5 minutes, ils savent en faire. Ouais. La partie debout, donc ce qu'on appelle le flowboard, est un peu plus galère au début, mais voilà. Et les instructeurs sont vraiment là pour vous expliquer, pour s'adapter au niveau de chacun, pour vraiment donner les bons conseils. Mais voilà, au bout d'une heure, tout le monde tient debout.
C'est une heure. Hein.
C'est une heure. La session dure une heure. Mm-hmm. Après, pour les plus mordus de nos clients, ils peuvent enchaîner plusieurs heures d'affilée. Ouais. Mais on va vraiment... On reçoit énormément de personnes qui vont venir une fois comme une expérience.
Oui, puis après, on revient pas, ça dépend.
Exactement.
Quoi.
Et on a toute une bande maintenant de personnes qui sont assez mordues de cette chose-là, quand on fait leur sport et qui vont pratiquer 3-4 fois.
Ça se passe comment pour le prix? Alors, on paye sur PAL, d'abord combien, et où est-ce qu'il faut réserver?
Alors, tout se passe sur Internet, sur notre site webinparis.com, ou sur place quand les gens veulent le réserver.
C'est pas le contact sur place.
Non, tout à fait, ça va. Non, mais en soi, vous pouvez venir. Voilà, le risque, c'est qu'il n'y ait plus de place. Parce qu'on limite nos sessions à 8 personnes pour une meilleure... Une meilleure expérience pour chaque client. Et du coup, on conseille de réserver en avance. Vous allez sur webinparis.com, vous réservez votre créneau. Donc, il peut y avoir jusqu'à 8 personnes. Donc, soit vous venez à plusieurs, soit vous venez seul et vous serez accompagné de personnes que vous ne connaissez pas. Mais très sympathique toujours.
Et puis, quel est le prix?
Donc, les prix vont varier selon les temps de la semaine. En gros, du lundi au vendredi avant 17h, on est à 25€ pour une heure. Mmh. Par personne. Le soir et pendant les vacances scolaires, on a 35€ par personne. Et le week-end, on a 49€ par personne.
D'accord. Et puis bon, chacun a son maillot de bain, donc ça pose pas de problème. La planche de surf, par contre, elle est comprise dans le prix, en fait. Elle est donnée pour la séance, quoi.
Exactement. Ouais. Donc le prix inclut le matériel, donc la planche. Après, même si on a pas mal de personnes, on se balade pas forcément dans Paris avec son maillot. Donc ceux qui ont oublié, il y a possibilité de louer des maillots, de louer des serviettes. Il y a des vestiaires sur place. Ouais.
C'est-à-dire, on passe devant, on se dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais m'arrêter.
Ouais,
ça nous arrive. Oui, ça ne m'étonne pas. Et alors, vous le faites aussi, vous faites des tarifs promotionnels, préférentiels, parce qu'il peut aussi y avoir des adhésions à l'année, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois.
En fait, on fonctionne en carte de crédit, donc on va acheter un nombre de sessions d'avance, et plus on achète de sessions, moins cher nous reviendra la session. Donc ça, c'est une première façon, et aussi l'autre gros point qui plaît beaucoup, c'est les privatisations de sessions. Donc on va venir privatiser pour 8 ou plus de personnes, et là, du coup, on a un prix dégressif.
J'ai vu, vous aviez des séminaires pour entreprises. Hein. Ouais. Il y en a qui font du golf. On peut aussi aller faire du surf. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas des enterrements de vieux garçons ou de jeunes filles ou des anniversaires.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on a vraiment une cible qui est très, très large. Donc, entre les enfants, les adultes, les entreprises, les comités d'entreprise, les anniversaires, etc. Donc, on vient vraiment adapter notre offre par rapport à ces demandes. Mais c'est vrai que pour les séminaires, entre la vague et les terrains de squash qu'on a à l'étage, on a aussi un espace restaurant, bar, etc., avec toute une offre de boissons et de restauration. Donc on vient vraiment répondre à l'ensemble des demandes.
Alors justement, vous parliez du squash et du paddle. C'est les mêmes clientèles? C'est-à-dire, on peut venir faire une séance de surf et puis, enchaîner une heure après sur le squash ou sur le paddle?
Sur la partie, souvent les squashers qui viennent pour la première fois, en fait, on a deux sites internet différents qui sont pas du tout, qui se ressemblent pas du tout. Et c'est vrai que les gens, les squashers, quand ils viennent chez nous, ils sont assez surpris d'arriver face à une vague parce que l'accueil donne vraiment sur la vague. Et du coup, ils deviennent rapidement curieux. Donc, la plupart de nos squashers réguliers se sont déjà aventurés sur la vague. Et l'inverse marche aussi. On a pas mal de personnes qui font de la vague et qui maintenant se mettent au squash petit à petit alors qu'ils connaissaient pas du tout ce sport vraiment.
Alors, Paris, c'est une ville touristique. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent notamment l'été.
Exactement. Hein Donc ça, c'est une grosse base. Ça a été une cible qui a été compliquée à atteindre au début parce qu'ils sont référencés dans les activités pour touristes, etc. Là où aujourd'hui, nous, notre meilleure communication, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment la mère de famille qui a découvert ça et qui envoie un message à l'ensemble de ses copines sur WhatsApp et en disant, voilà, il faut faire ça.
Alors qu'on soit anglais, américain, japonais, chinois.
De plus en plus, on travaille avec les chaînes hôtelières pour être référencés dans les activités possibles. Voilà, l'idée, ça serait de devenir une activité incontournable de Paris quand on vient visiter Paris.
Et puis, vous avez, j'allais dire, l'aspect peut-être un peu plus sportif. Ça aussi, ça se fait. Est-ce que vous avez une école de surf ? Est-ce que vous formez éventuellement des jeunes qui voudraient ensuite s'initier à la compétition et puis partir notamment sur le Pays Basque ?
Alors voilà, donc ce que je vous disais, c'est en fait, on est vraiment sur un sport à part entière. Donc, on fait attention à ne pas vendre ça comme du surf. C'est, bien sûr, ça va être complémentaire. Ça va aider à pratiquer d'autres sports de glisse. Mais il y a vraiment des compétitions propres à ce type de vague, donc des compétitions de flowboard. Et en effet, on a une école de glisse donc, qui s'adresse aux adultes et aux enfants également. Et on fait...
Et ça marche bien, cette école de glisse ? Il y a beaucoup de monde ?
On a des adultes les lundis et mardis soir et les enfants le mercredi après-midi et le samedi matin.
Ah, d'accord.
Et on doit avoir du coup, là cette année, pour la deuxième année, on devait avoir je sais pas, une trentaine de personnes qui représentaient cette école de glisse. Et après, on a aussi beaucoup de pratiquants qui sont déshabitués, qui pratiquent énormément et qui commencent à développer un certain niveau pour lesquels du coup, on commence à créer des compétitions. Donc d'abord, des compétitions internes un peu au club. Et là, on commence à être en relation avec les autres vagues de France. Comme la nôtre, pour organiser des tours un peu en France. Et il y a aussi un tour international qui existe, donc ça sera l'objectif dans les années à venir de créer une étape internationale à Paris.
Ah, c'est bien, ouais, voilà. Et puis, il y a des sportifs aussi d'autres sports qui viennent, je sais que en ski, par exemple, peut-être.
Alors,
elle a fait du ski puis du surf, faut savoir.
Chaque fan de sport de glisse est toujours un peu sensible à ce genre d'activité, d'expérience. Donc, c'est vrai qu'on accueille vraiment tout. Beaucoup de personnes viennent par curiosité, ils ne vont pas forcément faire leur nouvelle discipline, mais ils vont venir s'essayer sur la vague et cocher cette activité.
Et puis on va le dire avec des moniteurs. Hein. Ça, c'est
toujours avec des moniteurs.
Ça, c'est, voilà.
c'est vraiment, et je leur dis vraiment à mes moniteurs très régulièrement, leur mission numéro un, c'est vraiment sécuriser et faire pratiquer en toute sécurité.
Et rassurer peut-être éventuellement. Est-ce que des fois certains et certaines ont peur?
Oui, beaucoup. Les enfants notamment, ça fait beaucoup de bruit. Au début, ça peut être assez impressionnant. Et voilà, généralement, ils peuvent être un peu effrayés au début. Ça dure 2 minutes. Hein. Une fois qu'ils ont essayé, ils ne veulent plus sortir.
Comment sont les planches maintenant? Ça a beaucoup évolué, je suppose, dans le matériel.
Alors, les planches, donc, elles sont vraiment spécifiques à ce type de vague. Donc, on a des bodyboards qui peuvent ressembler un peu aux bodyboards qu'on a dans l'océan. Qui sont en espèce de mousse. Avec un revêtement plus dur. Et après, le flowboard, c'est vraiment des planches qui sont vraiment faites que pour ce type de vague, qui vont ressembler plus ou moins à un petit wakeboard ou un grand skate.
Benoît, ça vous inspire un commentaire?
En tout cas, ça donne envie.
Ça donne envie d'essayer.
C'est sûr que c'est original. Et pour une sortie sur Paris...
C'est
vrai qu'on n'y pense pas...
C'est des pionniers.
Ça a l'air d'être très intéressant et très fun, quoi.
Mais le nombre de personnes qui passent devant le centre et qui par curiosité
rentrent. Au départ, c'est la curiosité.
Mais jamais j'aurais pu penser trouver ça dans Paris, quoi. Et c'est vrai que c'est un lieu où. En hiver, quand il fait froid, nous, on a un bar qui est un peu décoré, un peu style plage, etc. Du coup, les gens ont tendance à se dire, j'ai l'impression d'être sorti de Paris pendant deux heures.
Vous savez ce que vous pouvez faire pour le Téléthon ? C'est une bonne activité.
Ça fait pas mal.
On vient faire du Téléthon, on va faire un peu de surf.
On va faire 24 heures de surf.
Ça va peut-être pas dans vos caisses, mais c'est une belle caisse de résonance dans notre côté aussi.
Ouais, tout à fait.
Ça permet de savoir qu'il existe un centre pour faire du surf. Quoi.
Tout à fait.
Ouais. Est-ce qu'il y a un profil type du surfeur ou de la surfeuse? C'est-à-dire qu'il vaut mieux être petit, 50 kilos, qu'avoir 90 kilos ou 100 kilos sur la planche.
Non, c'est vrai que les petits ont l'avantage d'avoir un centre de gravité un peu plus bas et du coup, on va trouver l'équilibre assez rapidement. Bon, moi je fais 1m88, je m'en sors plutôt pas mal sur la vague, donc non, ça, vraiment ça va être assez surprenant d'ailleurs de voir certains qui vont vraiment prendre le pli directement. Et après, par contre, la chose qui est un peu commune à tous, c'est vraiment les enfants. Dès qu'ils, plus tôt ils commencent, plus vite ils y arrivent. Ouais,
c'est pareil pour le ski, hein, c'est pareil pour
ça. Devient presque agaçant là, quand nous on galère vraiment à se développer sur la vague et que eux en deux séances ils arrivent à faire des choses qu'on a pris plusieurs mois à choper.
Et donc vos moniteurs, il y a des moniteurs diplômés, ça existe en surf, mais c'est un accès, vous qui venez du monde du sport, c'est justement un accès facile pour faire justement du surf un jour éventuellement son métier en tant que moniteur, comme il y a des moniteurs de voile, de tennis.
Ouais, nous en fait on a pas mal dans nos moniteurs, on a pas mal de fans de surf, de surfeurs, on a pas mal d'étudiants qui sont moniteurs chez nous, et il y en a qui nourrissent ce projet de se développer en surf et devenir moniteur. Après nous, sur notre vague, on dépend pas de la Fédération Française de Surf. Oui. Et du coup,
ils n'ont jamais voulu
ça a été un choix de leur part. Ça leur a été proposé quand il y a eu les premières vagues statiques qui sont arrivées en France. Ils ont choisi de pas intégrer ce type de vague parce que, comme je vous disais, on n'est vraiment pas sur du surf. C'est vraiment une discipline à part entière. J'appuie dessus. Et c'est vrai qu'ils ont choisi de pas intégrer ces vagues-là à la Fédé. Et nous, ça nous permet de ne pas être non plus obligé d'avoir des profs brevetés d'État en surf pour encadrer ce qui aurait été plus compliqué à trouver dans Paris.
Ils courent pas les rues. C'est des gens sérieux et compétents.
Tout
quand
à
même,
fait. Nous, on met un gros point. La plupart, ils ont tous des formations pour accompagner des jeunes notamment. Donc on fait très très attention dans notre sélection, et après on en a pas mal qui ont été clients chez nous, qui sont fans de la vague et qui veulent transmettre vraiment leur expérience.
Alors ça tombe bien, c'est une question que j'allais poser. Est-ce que vous embauchez, est-ce que certains ou certaines qui écoutent l'émission ce soir se disent tiens, ce serait sympa comme type de boulot?
Ouais, bien sûr, on embauche beaucoup là, avec la période des vacances qui arrive.
Juillet,
août est une très forte période pour nous. Donc là, le mois de juillet, on est plein sur l'équipe. Après, en août, il nous reste de la place. Et après, voilà, comme je vous disais, on a pas mal d'étudiants dans notre équipe, donc pas mal de turnover. Et donc on a des recrues, on a des emplois en tout cas pour la rentrée en septembre. Donc n'hésite pas, les fans de glisse.
Il y a des périodes un peu plus creuses, non? C'est tout le temps. Vous, quand vous êtes en indoor, on préfère peut-être venir au mois de novembre, prendre un petit peu l'eau, ça fait assez sympa, 27 degrés.
C'est ça. Alors on a vraiment tout imaginé, s'attendait pas à vraiment marcher toute l'année comme ça.
Ah oui,
nous vraiment au début on pensait qu'on allait marcher l'hiver parce que indoor, comme vous disiez.
Oui, parce qu'on peut. Ouais.
Et finalement on explose l'été parce que avec les températures qu'il fait, un peu à l'image d'Aqua Boulevard, les gens viennent chercher des activités aquatiques pour se rafraîchir. Et au final, on n'a pas forcément de temps creux, de temps mort dans l'année, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, ça fait 2 ans qu'on tourne maintenant et que ça se maintient. Donc je touche du bois pour que ça continue. Ouais. Et du coup, on est plutôt rempli toute l'année. Ouais.
Alors, vous parliez aussi du paddle et puis du squash. Je crois que vous avez un deuxième établissement. C'est dans le Val-de-Marne, hein, je pense.
Ouais. Exactement, c'est à Sucy-en-Brie. C'est un club qui s'appelle Padel et Horizon, qui est un des plus beaux clubs de padel de France. On a 6 terrains de padel, 4 squash, 4 badminton, et on tend à s'agrandir très prochainement.
Et justement, est-ce que faire un centre comme ça, comme vous avez à Paris sur le surf, ailleurs en Île-de-France, c'est un jour envisageable pour vous?
Pour une vague?
Oui.
Alors
pourquoi pas. Après, bon, il faut trouver le lieu, puis les gens qui veulent bien.
C'est ça, en fait. Nous, on est dans notre boîte, on cherche à développer de nouveaux projets.
Oui,
il y a une forte demande sur le padel et on a plusieurs projets en étude actuellement. Pour la vague, on a été sollicité à plusieurs reprises, mais c'est vrai que nous, le point de départ pour étudier un nouveau projet, c'est trouver un lieu qui peut être intéressant. On peut pas placer une vague partout. Ouais. Il faut des bâtiments adaptés et il faut aussi une zone de chalandise qui soit intéressante.
Alors vous, Vimpey, vous êtes dans le 15e, on va dire où c'est la rue Niver, c'est ça,
hein? Rue de la Croix-Niver, on est vraiment à 5 minutes du métro commerce à pied.
D'accord, c'est ça qui est intéressant à savoir pour l'auditeur.
Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment la force qu'on a, on est une des seules vagues au monde à être entre guillemets en centre-ville. Souvent, c'est plutôt des activités qu'on retrouve dans les zones d'activité qui sont autour des grandes villes. Et nous, on est vraiment au cœur du quartier commerce, vraiment accessible de tous.
Alors, 2024, il y a les Jeux Olympiques. Hein, on a eu l'occasion d'être donc à la présentation de la femme vendredi. Interview d'ailleurs qu'on vous diffusera la semaine prochaine. Je suppose qu'on va... C'est le cas de dire, surfer sur cette année donc 2024 chez vous, et on va beaucoup promotionner le surf qui est discipline olympique.
Et oui, discipline olympique, là ça sera les deuxièmes olympiades qui présenteront du surf.
Donc on va peut-être essayer d'accompagner cet événement à travers peut-être des manifestations.
Ouais, voilà, nous on va essayer d'activer pas mal dans le centre pour mettre en avant le surf, sachant que le surf sera à Tahiti du coup pendant Paris 2024. Et du coup voilà, on est en train de réfléchir à plusieurs façons de mettre en avant cette discipline. Voilà, on mettra les
épreuves
en direct.
Est-ce que vous avez des écrans géants, par exemple ?
Alors, on a des écrans.
Au moment des jeux, vous pouvez diffuser aussi les...
Ça va être le but.
Alors, il y aura le décalage horaire, certes.
Il y a un petit décalage horaire, mais on s'adaptera. On est quand même ouvert assez tard et ouvert assez tôt. Donc, le but, c'est de diffuser et d'être une des places qui mettent en avant le plus le surf possible.
Le surf et puis le sport, quand il y a des mondiales de foot, par exemple.
Ça, on le fait.
Vous voyez.
Ça, on le fait.
Je me doute, je sais tout. C'est vrai que.
Les gros événements sportifs sont.
Non, mais parce que. Malheureusement, ça attire aussi.
Non, c'est ça. Non, c'est le but. On prend le sport tout type de sport. Donc,
Médiatiquement, le surf, ça reste encore pour vous un sport confidentiel. Il faut attendre qu'il y ait une médaille olympique pour qu'on en parle un peu plus.
Ouais,
on voit des images à Hawaï, tout ça, mais voilà.
C'est vrai que le surf a vraiment cette image un peu exotique, mais de plus en plus en France, on se rend compte que les gens se mettent au surf. On le voit sur les plages de la côte basque ou dans les Landes, c'est que de plus en plus de personnes se mettent à cette activité, veulent se tester à cette activité.
Et là-bas, c'est des véritables compétitions. Et je crois qu'on vend les planches après les compétitions, c'est ça, non ?
Alors non, on peut acheter des planches un peu partout, mais
oui, mais on les revend pas une fois qu'on fait sa compétition.
Non, généralement,
on vend pas la planche. Ah bon,
ils gardent.
Il me semblait que c'était.
Ils sont assez attachés à leurs planches.
Mm-hmm. Alors justement, bon, en France, on a connu beaucoup Florès, c'était le nom qui ressortait. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vivre de ce sport ?
Bien sûr, le surf, le top 40 qui fait partie de la ligue, entre guillemets, on va dire la Ligue 1, ils vivent très bien de leur
mais
sport.
Ils vivent de quoi ? Avec des partenaires, la
ils ont une grosse partie en sponsor qui vont financer déjà leur saison, parce que la saison de surf se passe dans les quatre coins du monde tout au long de l'année. Et avec aussi du prize money sur les compétitions, etc. Mais essentiellement par le sponsoring.
Bon, la France, c'est peut-être pas le pays le plus, le plus prolifique au niveau résultats sportifs.
Ah, détrompez-vous, on a quand même Joanne Defeu qui vient de La Réunion aussi, qui a été numéro 5 mondial l'année dernière, elle finit 5e. Jérémy Florès, dont vous avez parlé, qui est un des...
Oui, parce que c'était le nom que tout le monde ressortait
C'était un peu le grand espoir. Il a été top 8 mondial pendant plusieurs années, et on a pas mal de beaux espoirs qui arrivent, notamment Colby Vast qui vient de se qualifier là pour les JO, qui vient de Tahiti et qui est un des gros espoirs du surf international. Donc s'en sort bien là.
Et vous qui êtes du métier, bon, ceux qui viennent chez vous, qui s'initient au surf, qui après veulent prolonger, quelle mer vous leur conseillez ? La Réunion, je suppose.
Alors La Réunion, non, mais moi je leur conseille surtout de s'essayer au surf. Oui. C'est une activité qui est différente de ce qu'on propose. Mais c'est vrai qu'on essaie de... Nous, le but vraiment, au-delà de la pratique de la vague qu'on fait, c'était vraiment de recréer un lieu qui prône l'esprit surf, parce qu'on aime appuyer le fait que le surf, c'est pas juste un sport qu'on vient pratiquer, c'est vraiment tout un peu un style de vie, esprit qui tourne autour du truc.
C'est cette image-là,
c'est vraiment de venir... Beaucoup de nos clients réguliers maintenant, depuis 2 ans, se sont essayés lors d'un surf trip. Ils sont partis une semaine et ils ont vraiment goûté à cet esprit surf pendant une semaine lors des voyages. Donc on est content de leur donner cette
envie. Et il y a beaucoup de filles aussi qui font ce sport.
Oui, il y a vraiment
beaucoup de filles et femmes.
C'est assez mixte.
Ah oui, c'est un sport qu'on pourrait faire mixte. on parlait justement. Alors, il pourrait y avoir des compétitions mixtes.
Au niveau international, non, il y a quand même un gros écart sur.
C'est quoi l'écart? C'est quoi? C'est la puissance?
C'est un écart de puissance.
Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de sports, malheureusement.
Exactement.
Ouais.
Là, vous regardez des images de surfeurs pro et surfeuses pro sur les mêmes vagues. Il y a un écart au niveau de la puissance. Après, depuis 2 ans maintenant, le tournoi international masculin et féminin se passe exactement sur les mêmes vagues. Où avant, il y avait 2 calendriers différents. Maintenant, ils ont unifié le truc. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, limite, même quand c'est trop gros, les garçons vont à l'eau, les filles n'y vont pas. Ils attendent que ça se calme un peu.
Oui, donc c'est impressionnant quand même. Hein. Le beau symbole du foot et puis du surf, c'est Vicente Lizarazu.
Exactement.
Il peut faire le lien.
Bah, lui qui surfe et surtout son frère, Peyo Lizarazu, qui est un surfeur de grosses vagues. Donc, il est bien ancré dans la culture.
Est-ce que c'est considéré comme un sport dangereux et à risque?
Le surf?
Oui.
En général, ça reste un sport extrême.
Ouais.
Après, il y a différents types de pratiques. Il y a vraiment les surfeurs de grosses vagues. On parle souvent de Nazaré au Portugal, là où il y a eu un mort cette année. Mais là, on parle de surfeurs qui tentent de surfer des vagues de 15 mètres. Donc là, on rentre vraiment dans du très gros risque.
Ouais, et puis c'est le problème, on repousse toujours, on essaie de repousser toujours un petit peu plus ses limites. C'est pareil pour la montagne, pour la voile.
Exactement, c'est un peu tous les sports où les gens sont en quête d'adrénaline. On va toujours chercher plus parce qu'on en veut toujours plus.
À quelle vitesse on bat sur la planche à ce niveau-là?
Enfin, là, ça va dépendre vraiment.
Non, mais c'est pour que le grand public.
Ça va dépendre des vagues. C'est vraiment. Ça va être vraiment propre à chaque vague.
Ça peut aller de.
Ouais, ça va aller de 30. Je sais pas, pour les plus grosses vagues, ils doivent être proches des 50, 60.
Ouais. De 30 à 60 km/h.
Après, sur les vagues plus classiques, ce qu'on conseille au début, on est à 10-15 km/h.
Oui,
nous, la vague, là, on envoie une eau qui. Enfin, une. La puissance de l'eau, ça, on peut la varier entre 25 et 30 km/h.
Et quand on débute réellement, bon, en passant par votre centre, mais après qu'on va aller faire un peu plus intensément, tout de suite, on arrive à bien figurer. Ou, comme on l'a dit, il y a des plus doués d'autres, malheureusement.
Il y a des plus doués d'autres. Après, le surf, il y a vraiment aussi tout ce côté par rapport à d'autres sports de glisse. Où, par exemple, vous allez faire du snowboard à la montagne, on vous met en haut de la pente, vous la descendez. Le surf, il y a quand même tout un premier truc, c'est qu'il faut attraper la vague, il faut réussir à ramer dessus. Donc c'est quand même assez.
Ce feeling, cette sensibilité.
Il y a vraiment ce côté un peu ingrat où on peut faire 2 heures de surf et on va se retrouver à peine 10 secondes debout. Donc il y a tout ce côté-là, tout ce rapport un peu à l'océan sur le placement, la lecture de vague pour vraiment apprendre à
surfer. Il faut être un peu crazy, non?
Toujours. dans ce genre de sport, on essaie de temps en temps de brancher un peu le cerveau.
Et puis il y a des combinaisons quand on fait de la compétition. Ou alors on a un équipement qui est libre.
Non, les combinaisons, ça va vraiment dépendre de la.
Qui est libre, qui est au choix du compétiteur et de la compétitrice.
Oui, c'est ça. En fait, on s'adapte surtout à la température de l'eau pour choisir le type d'équipement qu'on va avoir. Après, sur les compétitions, ils ont ce qu'on appelle des lycras juste pour les différencier dans l'eau et avoir une couleur qui reparle. Mais l'équipement est essentiellement le surfeur et sa planche.
Très bien. Stan, j'avais promis de vous libérer pour 19h30. Vous allez simplement donc rappeler où se trouve votre centre. On en a parlé, mais on va le rappeler. Et puis, vous avez un site internet où on peut aller. Donc,
donc le centre s'appelle Wave in Paris. Il est situé au 107 rue de la Croix-Nivert. On est accessible en métro depuis le métro Commerce. Dans le 15e arrondissement de Paris. Et toutes les réservations se passent sur waveinparis.com.
Très bien, puis vous reviendrez nous parler de l'heure. Hein,
avec grand plaisir.
Tiens, pendant les JO, on a besoin de consultants, là, c'est
on
bien.
On prend le rendez-vous. Hein,
voilà, et puis je sais que vous aimez le sport en général. J'avais promis de donner le résultat du triathlon de Paris, puisqu'on a vu l'organisateur Thomas Delpech il y a une quinzaine de jours à ce micro. Il y avait 2 triathlons, le S et le M. Alors le S, c'était pour un niveau un petit peu moins relevé, c'était samedi. En individuel, c'est Fabien Collat qui s'est imposé en 1h, 5 minutes et 11 secondes devant Ghislain Hervé, 1h, 5 minutes et 51 secondes. Et le relais, il a été gagné par les Fast and Furious, donc 1h, 7 minutes, 38 secondes devant une équipe féminine, la première féminine, Ginini Antipode 1, en 1h, 9 minutes et 51 secondes. Je sais que ça a été un beau succès, ce triathlon sur Paris. Oui, ils ont commencé à 7h du matin, il valait mieux avec le soleil, 7h, 7h30. Et puis le triathlon M, c'était donc le lendemain, c'était le must. En individuel, c'est Quentin Barreau qui s'impose en 1h, 59 minutes et 9 secondes devant Romain Romain Elias, 2h, 2 minutes, 36 secondes. Et dans l'épreuve du relais, victoire, ça ne s'invente pas de Polono, des 100 mètres raclette, 2h, 2 minutes et 12 secondes devant la team France Cop, donc 2h, 8 minutes, 37 secondes. La première équipe féminine, c'est l'équipe Garmin, donc en 2h, 18 minutes et 54 secondes. Comme vous l'avez dit, toujours respect. Hein.
Grand respect. Voilà.
Allez, tiens, on va vous libérer avec une musique liée au surf, Beach Boy Surfing USA, pourquoi ?
Exactement. Bon, c'est une musique qui a souvent tendance à être choisie par nos clients qui viennent et qui laissent une story sur les réseaux, donc Surfing USA qui représente vraiment l'esprit surf.
Très bien, eh ben, merci et puis à très bientôt Stan.
À très bientôt, merci pour l'invitation.
Voilà, on va maintenant enchaîner sur le deuxième invité de cette émission du 26 juin et la première émission à l'heure d'été. Hein. Alors, Benoît, je l'ai dit, merci en tout cas d'être venu. J'ai appris que vous étiez le speaker du club, le Jean-Pierre Paoli, hein, qu'on connaît bien, du Sporting Club de Paris. Comment ça arrive ? C'était une vocation ? C'est accidentel ?
Pas du tout. Non, je ne dirais pas accidentel.
C'est parce que des fois, on peut avoir besoin de prendre service et puis finalement,
oui, 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 c'est vrai.
Ça se passe très bien, puis on reste. Hein.
Bon, alors déjà, c'est un...
C'est comme ça qu'avait commencé l'ami Jean-Pierre Pauly. Voilà.
Ouais. Non, mais c'est, en fait, c'est un exercice qui n'est pas, évident et qui n'est pas inné pour tout le monde.
Chauffer la salle.
Ouais, c'est pas simple. Ouais. Mais moi, je fais un métier à la base, donc, parce que ce n'est pas mon premier métier, métier officiel. Je suis, à la base, je fais de l'animation, en centre de loisirs et j'ai fait des saisons. J'étais saisonnier. Ouais. Pendant quelques années et donc j'ai appris à parler en public, j'ai appris à m'exprimer avec un micro, etc. Donc forcément c'était beaucoup plus facile. Et comment c'est arrivé au Sporting? À la base j'étais joueur de futsal.
Oui, alors vous déjà, comment vous êtes arrivé au Sporting? Ouais, c'est ça. Voilà, bon, avez joué au foot. Le foot, c'est une passion d'enfance?
Alors, pour être totalement franc, non. C'est pas, enfin, en tant que joueur, non. J'aime beaucoup le foot à la télé. Je suis un assidu du Paris Saint-Germain.
Oui. J'aime beaucoup le foot. Ça vous a toujours intéressé, même jeune.
Voilà. C'est-à-dire, j'ai intéressé toujours.
Donc
jeune.
Vous alliez voir les matchs.
J'allais voir les matchs, etc.
De temps en temps au Parc des Princes, sans véritablement jouer, quoi.
Exactement. Ouais. Okay. C'était plus le basket pour le coup.
D'accord. Non, mais...
Et mais bon, après, ensuite,
on peut faire les deux. Hein.
Bien sûr.
Il y a l'IFC qui fait les deux.
Voilà. Mais j'aime beaucoup le foot et le futsal. Et le futsal est arrivé parce que je...
Le futsal?
Alors, pourquoi le futsal? Le futsal, pour moi en tout cas, est arrivé dans ma vie, entre guillemets, dans le Val-de-Marne, puisque je vis à Nogent-sur-Marne. Et il y a un club
c'est un bon coin, c'est sympa.
Oui, c'est très sympa. Ouais. Et il y a un club, le club au Péreux sur Marne, qui s'appelle le B2M Futsal. Et j'avais beaucoup de collègues et beaucoup de copains qui étaient dans ce club-là. Donc en fait, ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller les voir jouer, etc. Et puis ça m'a pris, je dirais pas tout de suite de la passion, mais j'étais très intéressé par ce sport qui est différent du foot.
Oui, c'est ça. C'est
qui
ça.
Est vraiment différent du foot, mais qui est très spectaculaire, qui est très physique. On est en indoor aussi, donc ça, on mélangeait un petit peu le foot en extérieur, enfin ça, c'est du foot en intérieur, c'est vraiment un sport à part.
Et c'est vrai qu'à un moment ça répondait à un certain besoin. Il y a eu des gens à un moment qui ont eu besoin de, un peu comme le beach soccer sur la plage, hein, qui ont eu besoin aussi de voir le foot, j'allais dire, autrement, voilà, dans sa pratique.
Exactement, ouais. Exactement. Et j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment accroché. Et puis je suis resté quelques années. Je l'ai essayé. J'ai fait 2-3 années de. J'ai pratiqué ce sport pendant quelques années. Après, j'étais pas très fort, pour être totalement franc.
Non,
j'étais pas très doué. Mais c'est pas grave. Je suis devenu accro un petit peu à ce sport-là. Mmh. Et puis voilà. Puis à un moment donné.
Pourquoi qu'est-ce qui plaît plus que le foot traditionnel? C'est l'ambiance. Parce que vous l'avez dit, c'est un sport qui est difficile. Hein, très physique,
très tactique.
Il y a plein de techniques. Il n'y a pas de hors-jeu, certes, mais enfin.
Non,
bon.
Mais bon, hein, ça va dans tous les sens. Ouais. Bah oui. Mais enfin, c'est ce qu'on croit, mais professionnellement, après, sur le terrain, c'est. Tout est calculé, on peut faire autant de changements qu'on veut, etc.
Oui,
donc
en plus, ouais.
Donc les joueurs font beaucoup d'efforts pendant 2, 3, 4 minutes, et puis après ils ressortent, il y a d'autres qui rentrent, etc. C'est très stratégique, très tactique, et je vous invite à venir voir, c'est très intéressant. Et donc je suis arrivé au Sporting Club de Paris il y a 5-6 ans, c'est pareil, je crois que j'avais... Un copain d'un copain qui travaillait là-bas et qui à un moment donné, je me suis retrouvé à aller voir un match du Sporting et ça m'a plu. Et puis,
donc vous êtes revenu.
Je suis revenu et puis voilà. Mmh. Et puis après, cet ami en commun m'a demandé si j'étais disponible pour faire un remplacement.
C'est
en
lui
fait.
Qui a envoyé. Vous voyez que c'est accidentel. Ça commence souvent comme ça.
A fait un remplacement au micro, etc. Ouais. Et au final, ça s'est très bien passé, ça m'a plu. Et puis la personne qui était avant moi arrêté à ce moment-là. Mmh. Donc l'année suivante, la saison suivante, et puis ça fait 5-6 ans que je fais ça.
Donc vous êtes le chauffeur de salle, c'est-à-dire ça se passe comment avant les matchs
Alors il y a pas mal de préparation évidemment, parce qu'il faut préparer
Il faut que la voix soit comme nous hommes de radio. Hein.
Exactement. Il faut chauffer un petit peu la voix, il faut tester tout le matériel, les micros, pour pas que ça l'arsène avec la diffusion télé, etc. Il faut se mettre en place, il faut aller chercher les composition d'équipe, il faut aller vérifier que tout se passe bien, que tout est bien installé, etc. Que je sois en accord avec la vidéo, avec le DJ, etc. Bon, il y a pas mal de... voilà, avec la mascotte, parce qu'on a des mascottes aussi. On
alors, vous allez nous dire comment ça se passe, justement, un environnement comme ça dans un match. Mais enfin, ça, c'est pour les matchs à domicile toute l'année,
ouais,
que ce soit en championnat ou en coupe.
Oui, oui, tout à fait. Tous les matchs à domicile, tous les matchs à domicile, j'officie en tant que speaker toute l'année. Voilà.
Alors, comment ça se passe quand on arrive voir un match comme ça? Déjà, bon, on paye. Hein. Il y a une entrée payante, ou c'est pareil, oui. C'est par Internet? Ou alors, est-ce qu'il y a des abonnements à l'année?
Alors, il n'y a pas encore d'abonnement à l'année. Mais oui, c'est des entrées payantes. Alors, ce n'est pas très, très cher. Hein. Mmh. En général, c'est entre 5 et 8, oui. Voilà, 5, 8 euros. Voilà, sauf pour les gros matchs, où il y a des gros matchs quand on arrive en fin de saison, que c'est des finales, des demi-finales, finales, où on monte un petit peu. Mais le futsal, c'est pas très très cher pour l'instant. Mmh. Voilà, et donc oui, alors il n'y a pas d'abonnement, on peut prendre les billets par Internet, évidemment, sur la billetterie officielle. Et puis,
c'est sur votre Facebook ou sur
votre c'est les réseaux sociaux, Facebook
Internet,
et Instagram.
Il
voilà.
Y a la billetterie, on peut...
Exactement. Mm-hmm. Donc, il faut se connecter, Sporting Club de Paris.
D'accord. Mais il n'y a pas de vente au guichet?
Et si, il y a aussi de la vente mm-hmm. au guichet à l'entrée du gymnase.
Et justement, est-ce que vous avez des fidèles? Est-ce que c'est un public de curieux? Ou est-ce que finalement, il y en a qui, comme vous, sont devenus accros et puis viennent régulièrement voir vos matchs, vous encourager?
Alors
vous
oui, supporter. Évidemment, ouais. Le futsal, alors, au Sporting Club de Paris, comme dans d'autres clubs, oui, c'est des clubs de passionnés, c'est des clubs de un public de passionnés.
Bah oui.
Voilà. Et oui, parce qu'une saison de futsal, enfin, faut vraiment essayer pour l'adopter, parce que les matchs sont tellement excitants, tellement il se passe tellement de choses dans un match, de la première minute à la dernière seconde, il peut y avoir un renversement de situation. Il se passe tellement de choses que quand on vit des matchs à sensation, comme au futsal, forcément à un moment donné on devient accro et on revient, quoi. On a envie de reconnaître ça, de connaître encore et de reconnaître ces sentiments là donc oui, forcément
il y a un club de supporters, donc ils ont monté un club de supporters, de fidèles.
Alors il n'y a pas de COP ou d'ultra
avec
encore
des tifos,
pas encore, mais on y travaille.
L'idée c'est que
l'année prochaine on arrive à monter un vrai COP de supporters, mais on a des fidèles, on a des tambours, on a une mascotte, on a des choses pour faire plein de bruit, etc.
Alors par exemple, les matchs, ils sont à 20h30, c'est ça?
Alors, en général, ils sont en fin d'après-midi le samedi. Voilà,
d'accord.
Vers 18h30.
Okay. Ce qui laisse aux gens quand même la possibilité,
voilà,
le soir. Ça,
voilà,
c'est
exactement.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est 18h30, ça dure entre 1h30 et 2h. Donc à 20h30, la soirée.
Et puis vous pouvez prolonger, faire la fête après, c'est une cohésion d'équipe.
Voilà, exactement.
Non, mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'après, on se voit.
Oui, non, mais c'est
on
clair.
On prolonge le match battu ou.
Non, mais c'est toujours sympa de. C'est toujours sympa de, En fait, c'est comme une deuxième famille.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Donc vous arrivez combien? 2h, 3h avant?
En général, je viens 2h avant.
Ouais. Donc après, il faut accueillir les gens, puis il faut faire chauffer. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des attractions autour de,
alors oui,
de chaque match.
Ah oui, à
parce
chaque
que
match.
On en parle, mais c'est important. Le basket fait pareil. Hein,
oui, bien sûr. Donc oui, il y a des animations tout au long du. Alors pas pendant le match, mais tout autour. Mmh. Voilà, ça nous arrive de recevoir des groupes de danseuses, de danseurs, des freestylers, voilà, qui font des shows pendant la mi-temps. Ouais. Voilà, on met en place une tombola aussi à chaque match, un tirage au sort à la mi-temps avec plein de lots à gagner, des maillots, des ballons signés par les joueurs. Voilà. On a une mascotte aussi qui est là pour faire des photos, pour chauffer aussi les tribunes. Donc oui, il se passe pas mal de choses. Mais voilà, on progresse. On a le temps, on prend le temps, mais on progresse et ça devient...
Alors, c'est on va revenir sur la saison, mais c'est un club qui a une certaine histoire. Quand même.
Oui, on a fêté nos 40 ans cette année.
Ah oui.
Alors 40 ans du club, voilà, mais 20 ans de section futsal.
D'accord, voilà. Pourquoi? Parce que le club, c'était quoi avant?
Alors à la base, c'était un club de foot normal.
Ah d'accord.
Voilà, un
d'accord.
club de foot normal, et puis qui était une filiale du Sporting Portugal.
Mmh. Voilà, ah, oui, c'est pour ça que vous avez gardé les...
Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est une filiale du Sporting Club Portugal, donc de 1983 à 2003. Voilà, et puis,
c'est l'époque où ça répondait justement, vous disiez, à un certain besoin, à une autre façon de concevoir le foot. Quelqu'un a dû vouloir dire, tiens, on va créer du futsal.
Bah, c'est-à-dire qu'en 2003, effectivement, c'est la Ligue de Paris et Île-de-France qui décide d'organiser un championnat régional de futsal. Et donc, le Sporting, il se lance dans l'aventure.
Oui, parce qu'il y avait de plus en plus de demandes, justement.
Voilà, à fait. Mmh. Et même à partir de 2003, donc, le football du Sporting prend de moins en moins de place et le futsal passe devant. Voilà. Mmh. Et donc, Et donc voilà, et puis à partir de janvier 2005, le Sporting fait partie des deux clubs qualifiés pour une phase finale régionale
d'accord.
et de la Coupe de France.
Et après, ça a été une progression constante,
et
régulière.
Voilà, ça a été une progression, et jusqu'on a atteint, donc, on devient, entre guillemets, à partir de 2009, parce qu'en partir de 2009, c'est le premier championnat de France de futsal qui a été créé en partir de la saison 2009-2010. Et donc, le Sporting Club de Paris intègre ce championnat de France à partir de cette année-là. Ouais. Et voilà, et puis on termine deuxième.
Tout de suite, ça s'est bien passé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on termine, on est vice-champion à ce moment-là et on connaît notre première victoire en Coupe de France. Mmh. Voilà, et puis après, c'est les. Entre guillemets, nos grandes années. On fait des doublés, championnat, Coupe de France, etc. Pendant quelques années, pendant de 2009 à 2015, je dirais.
Ah ouais, quand même.
Ouais, on
plus de 6 ans, quand même.
Oui,
hein.
On règne sur le futsal français. Mm-hmm. Donc, on gagne des titres. Voilà, ouais, on est 5 fois champion de France, 6 fois 6 coupes nationales. Ouais. Et puis voilà, mais le futsal se développe aussi donc, à côté de nous, autour de nous. Oui. Donc,
Et ça, c'est essentiellement dû à l'équipe dirigeante ou alors... Qu'est-ce qui a fait cette force, cette âme? L'équipe dirigeante actuelle, elle est en place depuis longtemps?
Oui, bah c'est la même, c'est la même.
C'est, voilà. C'est ce qui explique cette stabilité.
C'est, évidemment.
Qui explique sûrement la.
C'est une vraie stabilité dans ce club, c'est-à-dire que le président est toujours là, le coach est là aussi, Rodolphe Lopez, depuis des années. Donc oui, c'est cette stabilité qui fait que effectivement, on maintient ce niveau. Mmh. Voilà.
Alors, on parlait du public, j'ai oublié de vous demander la moyenne des gens qui viennent au match. C'est combien? 2000, 3000 spectateurs?
Oh non, on n'en est pas encore là. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Nous, dans notre...
Oui, parce qu'on va dire, vous jouez donc à Carpentier, uniquement.
Oui, tout à fait. Ouais. On reçoit, on fait nos matchs à domicile dans la petite salle à Carpentier, à l'annexe Carpentier, jusqu'à cette année. Voilà, c'est-à-dire que depuis le début,
c'est le basket qui joue à côté, dans la grande salle, et le basket qui va partir.
Exactement, le basket déménage l'année prochaine. Donc on va récupérer la grande halle Carpentier, et donc c'est à partir de la saison prochaine où on fera tous nos matchs à domicile dans la grande salle qui contient beaucoup, 3 000 à 4 000 places. Bon, l'idée c'est Oui, je ne sais pas si on va les remplir tout de suite, mais cette année on a fait quelques matchs, dans la grande salle à la Carpentier, les gros matchs. On a fait 4 matchs, je crois, et on a battu le record puisqu'on a atteint plus de 1300-1400 personnes spectateurs pour un match de futsal. Donc c'était un record, et effectivement ça nous donne de l'espoir et ça nous donne envie de continuer de progresser, etc.
Et les gens qui viennent vous voir, bon, il y a naturellement, j'allais dire, les locaux, hein, les gens de l'arrondissement, mais est-ce que vous avez des gens qui viennent de beaucoup plus loin? Par exemple, tiens, vous parliez du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, c'est pas loin, ils peuvent aussi se déplacer.
Bien sûr. Il y a des gens.
Créteil, tout ça.
Oui, tout à fait.
Pourquoi pas?
Il y a toute la région parisienne qui se déplace pour nous voir. Oui. Dans le futsal, le Sporting Club de Paris est quand même un club très réputé, très reconnu, historiquement parlant.
Il n'y a pas le Crémin Bicêtre qui est pas loin aussi. Alors je crois que ça va faire des beaux derbys bientôt.
Oui, ils sont déjà dans le championnat, ils sont déjà en D1. Mais c'est le club voisin et c'est pas le club ennemi, pas du tout. Mais c'est un club.
Il n'y a pas d'ennemi en sport.
Voilà, il n'y a pas d'ennemi.
Il y a des adversaires, des concurrents, mais voilà.
C'est un peu le derby, c'est-à-dire que c'est des clubs voisins et ça fait toujours des gros matchs parce que c'est un peu la rivalité avec le Crémin.
Et ça va, l'ambiance, c'est sympa. Bon, c'est enthousiaste, mais il n'y a pas de débordement comme on peut parfois avoir
pas à ce niveau-là.
Au foot.
Non, pas à ce niveau-là. Quand on arrive en D1, effectivement, on a des. C'est quand même, on a de la sécurité et puis les gens sont pas là. Les gens sont pas là pour
non, mais pris des fois par l'action, vous savez.
Oui.
Les effets de foule. Hein,
oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais pas. Non, au Sporting, ça se passe très très bien. Voilà, tout est cadré. Et puis les supporters. Et puis on est un club aussi familial, je veux dire. On reçoit des familles. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent nous voir.
Ça, c'est important.
Voilà, les matchs sont pas trop tard. Donc le public, il est là. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup de parents. C'est très sympa. Très sympa.
Donc, vous l'avez toujours dit, tout de suite, donc des résultats. Hein, ça vient effectivement de la politique de continuité du club. Je voudrais qu'on parle un peu des joueurs. Parce que, ça c'est l'équipe Fayon. Est-ce que vous avez d'autres équipes?
Évidemment. Le Sporting Club de Paris a une académie avec beaucoup de jeunes.
Donc, eux viennent chez vous, ils restent, et c'est ce qui explique peut-être aussi les bons résultats.
Le club, le Sporting, a envie. envie de former ces jeunes, de former ces joueurs et qui rentrent dans l'équipe première, etc. Donc oui, effectivement, on a une académie, on a une équipe féminine aussi.
Ah oui, ça c'est important. Alors l'académie, c'est à partir de quel âge? Il faut le dire pour les jeunes, pour les parents qui nous écouteraient.
À partir de 6 ans, ils peuvent déjà venir
donc
au futsal.
Donc ils peuvent venir vous rejoindre. C'est-à-dire que dès le mois de septembre, ils vont aller à la Carpentier, ils vont s'inscrire pour le forum des associations.
Voilà, par exemple, ouais. Très bien. Et puis ils peuvent s'inscrire. Alors, on a beaucoup de licenciés, bah oui. Puisqu'on arrive, là, on a atteint les 600 licenciés.
Ouais, ouais, au total
Au total. Ouais. Donc, on est le plus gros club de futsal de licenciés. On a aussi développé la section loisirs. Donc on développe. On a aussi une équipe réserve. L'équipe réserve qui s'est maintenue cette année en régional 2. Donc, oui, on essaie de maintenir un standing, voilà, dû à notre réputation.
Donc ça, vous les prenez à l'académie, tout de suite ils font de la compétition ou il y a une école, j'allais dire de futsal le samedi ou
non
tout
parce
ça,
que il ouais. y a pas il y a enfin
il y a pas de pas, compétition quand
on
en futsal,
ouais,
en plus.
Quand on est jeune, c'est pas de la compétition, c'est plutôt des plateaux, oui. Voilà, c'est-à-dire que le week-end c'est organisé avec d'autres clubs de futsal et qui organisent des rencontres. Il y a pas de compétition officielle très jeune. Non, il y a des compétitions pour les U18, pour les catégories un peu plus élevées.
Et donc les jeunes qui viennent en général dans votre club, ils restent à ce sport, ils attendent qu'ils puissent faire les premières compétitions. Ou il y a un turnover, comme malheureusement ça se fait dans
le club. Je dirais, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui restent, qui font toute leur vie au Sporting. Puis il y en a d'autres qui vont voir ailleurs.
Oui,
mais en général, ils reviennent toujours nous voir.
D'accord. C'est ça. Alors, donc les jeunes font l'académie. Les premières compétitions, ils peuvent les faire à partir de quel âge dans vos clubs?
J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que les compétitions... Oh non, il y a des compétitions pour les U12, U13 peut-être, 12 ans, 13 ans.
Ouais, ouais donc ouais. Ça fait 12-13 ans. Ouais,
ouais, ouais. 12-13 ans, c'est les premières compètes. Il y a peut-être plutôt, mais je suis pas sûr. Pas sûr pour le coup.
Et puis les féminines aussi.
Donc, les féminines aussi, oui. Ouais, ouais,
alors elles, c'est le même âge ou il faut qu'elles attendent un peu plus tard?
Alors un peu plus tard, mais là elles ont créé, il y a une section féminine qu'elle a depuis 2 ans, je crois. Mm-hmm. Et là cette année elles sont montées dans le challenge national, donc ça va être une grosse saison l'année prochaine pour nos féminines. Et c'est pareil, c'est un gros groupe, mais elles sont compétentes. Ouais.
Mais alors, tous vos clubs qui jouent, toutes vos sections qui jouent en championnat, ils jouent tous à Carpentier ou il y a des salles annexes?
Ça.
Ça doit poser des problèmes, là,
même pour
les féminines. Hein.
Mais c'est une difficulté. On doit reconnaître que c'est une difficulté parce que même si la mairie de Paris nous aide beaucoup, nous donne des gymnases, des créneaux, etc. Vu qu'on a beaucoup de licenciés, beaucoup de sections, c'est une difficulté. Et puis il y a beaucoup d'autres sports en salle, il n'y a pas que le futsal.
Oui, c'est
donc
ça.
En fait, tout le monde s'arrache les cheveux et malheureusement, on ne passe pas encore en priorité. Quoi.
Et je sais qu'il y a des sections sur Paris qui nous ont dit qu'ils se partageaient des fois entre 10 arrondissements leurs différents clubs, leurs différentes sections. Quoi.
Non, mais c'est sûr que c'est
non, mais là, vous jouez où vous, alors, vous jouez où sinon?
Alors, on a d'autres gymnases dans le 13e.
Oui, d'accord.
Voilà, gymnase Château des Rentiers, on a gymnase Glacière. Voilà, on a d'autres petits gymnases.
Mais les équipes Fagnon jouent, elles, à Carpentier.
Ouais. L'équipe première, évidemment, et femmes aussi, féminine.
L'équipe réserve, non?
Si, l'équipe réserve aussi. L'équipe réserve joue aussi à Carpentier.
D'accord. Et elle joue juste avant donc l'équipe première, c'est-à-dire qu'il y a 2 matchs pratiquement.
Alors oui, l'équipe réserve, elle joue en début d'après-midi. Mmh. Quand il y a les 2 matchs, quand elle joue à 13h, elle joue à 13h et puis elle joue à 18h30, il y a le match de l'équipe première.
Donc, vos jeunes, vous l'avez dit, essentiellement, ils restent. Donc, on franchit les paliers. C'est ce qui explique la force de l'équipe Fagnon aujourd'hui. C'est pratiquement tous des joueurs du cru. Non,
non, je peux pas.
Arrivé à un moment, il y a des mercato aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que l'équipe. Alors, c'est pas évident. Pour maintenir ce standing, évidemment, donc le Sporting Club de Paris aussi, c'est comme au foot normal, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des joueurs étrangers qui viennent.
Vous en avez beaucoup?
On en a 5-6, ouais, il y en a quelques-uns. Ouais.
Des
la moitié de l'équipe. Des Brésiliens. Oui, des Brésiliens qui viennent. Ouais.
Mais alors, ils viennent, c'est une question que je vais aller poser plus tard, ils viennent gratuits, rénumérés?
Ah non.
Non, mais je m'en doute, je me dois de poser des questions.
Non, c'est effectivement, ouais. On a un statut de semi-professionnel.
Déjà.
Donc tous nos joueurs de l'équipe.
C'est-à-dire qu'on peut vivre du futsal?
Alors oui, on peut vivre du futsal, bien sûr, un sport
aussi confidentiel quand même.
Oui, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais oui, effectivement, on peut vivre du futsal aujourd'hui en étant en championnat de France de D1. Il y a des gros joueurs qui prennent. Je sais pas si vous avez eu écho il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où il y avait le meilleur joueur du monde, Ricardinho, qui était venu dans un club parisien et qui avait, il y avait même eu un interview dans l'équipe, où il prenait, je crois que c'était 30 000 euros par mois. Alors, on n'en est pas là, évidemment, puisque nous, les salaires dans le futsal, c'est entre 1 500 et...
Et c'est financé par les rentrées d'argent dans les matchs, mais aussi les partenaires privés.
Oui, bien sûr. Alors, on a des...
On a des sponsors,
évidemment. On a les subventions un petit peu de l'État. Mais effectivement, c'est un... l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais donc, c'est toujours compliqué.
Mais en général, par exemple, par l'équipe Fagnon qui a fait une belle saison cette année, ils sont combien à avoir été formés au club? La moitié? Même pas 10%?
Non, pas beaucoup.
Oui, pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ne restent pas, malgré la culture du club.
Oui, ils vont voir ailleurs, mais après, il y a des... L'objectif d'un club comme le Sporting, c'est évidemment de gagner des titres.
Bien sûr.
Et de rester.
On va rappeler combien de titres vous avez gagné.
On a 5 ou 6 championnats, on va dire, et 6 coupes nationales. Voilà, 6 coupes de France.
Donc, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'instant?
Pour l'instant, il n'y a pas de Coupe d'Europe.
Il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça n'existe pas en futsal.
Ah, si, bien sûr. Si. Il y a une Ligue des Champions.
Pourquoi vous n'êtes pas qualifié?
Mais parce qu'après, on passe sur une autre catégorie. C'est-à-dire que les clubs européens, la Ligue des Champions du futsal, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes joueurs. Et forcément, il y a un trop gros fossé entre les autres équipes européennes et nous. La France. Oui, il y a encore un gros fossé. Parce que mon équipe européenne, effectivement, c'est un statut professionnel pour le coup.
Les clubs français ont refusé de
participer. Le premier champion de France participe l'année suivante.
Quand vous avez été champion,
on joue contre des grosses équipes, et même si on n'est pas ridicule, mais on est encore loin du niveau international. Pour le coup.
Donc cette équipe Fagnon cette année, on va faire un petit retour en arrière sur le championnat. Oui. Ça s'est passé plutôt bien.
Oui, ça s'est bien passé. Alors on est retourné sur ce système de championnat avec des play-offs à la fin de la saison, c'est-à-dire que les 4 premiers étaient qualifiés.
Saison régulière. Vous jouez contre qui? C'est pour rappeler un petit peu les déplacements. Vous allez loin?
Ça va jusqu'à Toulouse. Ça peut aller même en Corse sur certaines années. Ça va en Alsace.
Et vous partez comment?
C'est en train.
Non, je ne veux pas vous piéger. D'avion, pas de voiture, si.
En général, c'est le train.
D'accord.
En général,
la Corse,
c'est le train.
Peut-être compliqué.
Quand ça reste en France, c'est le train.
D'accord.
Ouais.
Non, parce que aussi, partir ensemble, ça fédère aussi un groupe.
C'est important. De toute façon, le groupe, cette année, a très bien vécu.
Donc ça s'est fini comment cette saison dans le championnat?
On était jusqu'en finale.
Oui, je sais. Et malheureusement, finale perdue.
Ouais, on a perdu contre Laval. On a fait une très belle. Alors déjà la saison régulière, on a fini 3e. Voilà, et donc on a joué contre Nantes en demi-finale et on s'est qualifié pour la finale. Et après on a joué Laval 2 fois parce que là on était en finale de la Coupe de France, la Coupe nationale.
Et Laval a fait le doublé.
Cette année, que Laval est une grosse équipe. Enfin, faut reconnaître que c'est une. Elle mérite ses titres. Après on n'a pas démérité. On a fait une très belle saison aussi et puis on avait des très bons joueurs et. Et voilà, on est content de notre saison, même si on aurait aimé, évidemment, avoir au moins un titre.
Bon, je suppose qu'on prépare déjà la future saison. On va en parler. après la petite, pause musicale avec Supertramp Dreamer. Et puis ensuite, donc, on parle de la saison qui arrive et puis un peu des particularités, des spécificités du futsal.
Ok.
Alors Benoît, cette saison 2023-2024, comment elle se présente?
Elle se présente, en fait...
Ça y est, c'est les mercato, on va en parler tout à l'heure pour le foot, mais je suppose que dans le futsal, il y a des transactions, alors on peut peut-être pas trop en parler, c'est
C'est juste que je suis pas au courant de tout, donc voilà.
Promis.
Je suis pas au courant de tout, je suis comme tout le monde, j'attends les communiqués officiels de la direction.
Il y a une date limite pour les mercato
bien sûr. Bien sûr, il y a un mercato d'été, un mercato d'hiver aussi, comme au foot normal. Je sais qu'il y a des départs. Là, il y a une page qui va se tourner sur certains joueurs emblématiques de chez nous. Voilà, je sais que Boulaïba va s'en aller, que Thiago Bolinha va partir aussi, et Fineo aussi, Landry Ngala aussi également. Donc ça, c'est quatre joueurs qui sont... qui étaient avec nous et qui vont voir ailleurs. Voilà, il y a pas de problème. Et puis voilà. Et puis il va y avoir des arrivées. Alors les arrivées, là pour le coup, je ne sais pas. Donc je peux pas vous.
Mais on vient de très loin. On vient d'étrangers.
Bien sûr.
Et de la France entière. Hein,
faut dire ouais. C'est un vrai mercato. Il y a une équipe qui travaille dessus, qui connaît les joueurs, qui va voir les joueurs et qui.
Il y a des agents aussi qui viennent. Qui. Nous on en connaît certains dans le foot, hein, mais il y a des agents spécialisés dans le futsal.
Bah je ne pense pas.
Non. Vous n'avez jamais accueilli d'agent.
Non, pas encore. Mm-hmm. Pas encore d'agent dans le futsal. Après, je pense que on traite avec les joueurs directement. Mm.
Alors, on va rappeler quand même les règles, parce que le grand public ne le sait peut-être pas. Hein. On disait que c'était un sport très physique et à la fois aussi très technique. Hein, mais combien de joueurs sur le terrain?
Alors, il y a 5 joueurs sur le terrain, donc un gardien et 4 joueurs de champ. Ouais.
Ça, c'est interchangeable. Hein.
Voilà, bien sûr, il y a autant de changements qu'on veut.
Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur.
Alors, officiellement, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur. Après, dans le haut niveau aussi, il y a différents. Il y a des postes de prédilection. Voilà. C'est-à-dire que le joueur qui est juste devant le gardien de but, qui gère la défense, et on appelle ça le fixe. Donc là, pour le coup, il y a le fixe qui joue en défense. Vous avez les deux ailiers sur le côté et le pivot qui est en face. Qui est en face. Mais il y a tellement de déplacements dans le futsal que le fixe peut, peut se retrouver pivot, peut passer ailier, etc. Il y a pas mal de tactiques. Alors chacun a quand même une zone sur le terrain qu'il préfère. Et après, il y a les déplacements.
Donc les matchs durent en combien de temps?
Alors, niveau professionnel, ça dure 2 fois 20 minutes, mais c'est en temps arrêté.
Oui, c'est ça.
À chaque fois que la balle sort, le temps s'arrête.
C'est comme le basket. Quoi.
Voilà. Donc en fait, une mi-temps peut durer 45 minutes. Mm-hmm. Voilà. Pour la finale à Laval, par exemple, la première mi-temps a duré 1 heure.
Il y a des temps morts, non?
Oui, il y a un temps mort par mi-temps. Et
ça
équipe.
Va alors, on joue pas trop avec.
Ouais.
Oui, non, parce que ça peut. Ouais, c'est ça aussi le coaching.
Oui,
hein.
bien sûr.
Faire du temps mort à un moment stratégique du match important, mais voilà.
Évidemment, et puis donc, il y a une spécificité supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, on peut sortir le gardien pour faire rentrer un joueur de champ.
D'accord.
Donc c'est-à-dire que la cage est vide.
Ah ouais.
Et puis il y a 5 joueurs contre 4.
Oh là là.
Voilà, donc ça c'est évidemment après s'il y a une perte de balle, il y a beaucoup de buts qui se font directement dans la cage vide. Mm-hmm. Donc oui, après c'est une stratégie aussi les coachs aiment bien travailler aussi là-dessus.
Et c'est ça qui vous plaît dans le futsal,
génial.
Il y a pas de hors-jeu, on peut jouer avec les côtés, tout ça.
Alors, il y a des touches quand même.
Ah, c'est bien. Je fais exprès.
Il y a des touches, des corners, des remises en jeu.
Oui, il y a des corners, des touches.
Oui, bien sûr.
Le ballon, il est beaucoup plus petit.
Il est plus petit, il est plus lourd.
Oui, plus lourd.
Un peu plus lourd.
Bon, il n'y a pas de crampons. Donc c'est quoi? C'est une paire de tennis modèle classique.
Il y a quand même des chaussures de futsal qui sont maintenant qui sont adaptées, hein, évidemment, avec une surface plane, mais qui adhère un petit peu sur les parquets.
Et donc il y a une dépense à 2x20, mais c'est 2x20.
Un joueur ne peut pas rester
le cardio
deux fois.
Bien sûr,
un joueur ne peut pas rester physiquement, même un professionnel ne peut pas rester
Et donc vous l'avez dit, tout ça ça provoque souvent des changements de situation. On pense que le match est gagné, puis ça bascule comme le basket.
C'est extraordinaire, c'est qu'il y a des matchs, il y a 3 buts d'écart pour l'équipe adverse, et en espace de 3 minutes, on recolle au score, et puis on passe devant la dernière seconde. Enfin, c'est
Et quand il y a un championnat, quand on gagne un match, c'est 3 points, 1 point.
Oui, c'est 3 points, 1 point.
Est-ce qu'il y a des séances de tir au but, peut-être dans les matchs de coupe?
Oui, tout à fait.
Alors c'est pareil, les matchs de coupe, c'est 2 fois 20.
Oui, 2 fois 20, pareil, prolongation de 5 minutes.
5 minutes, et s'il n'y a rien, donc
c'est... Et s'il y a rien, tir au but. Mmh. Au but. Oui, ça arrive. Alors pas en championnat, évidemment, mais en coupe,
bien sûr. Donc c'est vraiment... Et très spectaculaire, et c'est tellement spectaculaire que ce sont des matchs qui sont transmis à la télé.
Oui, alors depuis maintenant...
C'est quand même incroyable. C'est un sport qui reste confidentiel et qui arrive à diffuser à la télé.
Oui, c'est diffusé sur Internet, sur la plateforme qui s'appelle Futsal Zone.
D'accord.
Voilà, où c'est tous les matchs de D1 Futsal sont diffusés. Ils ont une équipe aussi technique, etc., des caméras... c'est un début. Alors évidemment, on aimerait être médiatisé un peu plus.
Mais ça viendra peut-être parce que c'est vrai qu'on en parlait, ça tombait à une aspiration au moment où on, un peu plus. Hein, il y a eu le genre qui boule, le futsal, il y a eu le beach soccer, tout ça. Voilà, une variété de foot aujourd'hui. Certains joueurs se sont spécialisés. Est-ce qu'il y a des anciens joueurs de bon niveau de Ligue 1 ou Ligue 2 qui se sont reconvertis?
Alors, par exemple. Non, c'est plutôt l'inverse. Il y a eu des joueurs qui ont commencé par le futsal.
Ouais, bah oui.
Sam Ben Yedder, il a commencé. Même des stars, Ronaldinho, Neymar, tout ça, ça a fait du futsal. Mais dans le sens inverse, non. Pas à ma connaissance.
Alors, ça va très vite aussi. L'arbitrage, ça se passe comment? Il y a deux arbitres? Parce que ça va très vite, il faut tout voir.
Il y a deux
arbitres. Et là, il n'y a pas la VAR.
Ah non, là, il n'y a pas de VAR. Mais il y a deux arbitres. Il y en a donc un sur chaque côté, deux arbitres officiels, et un arbitre sur la table de marque.
Ouais.
Voilà, et puis voilà, et puis il y a cinq fautes d'équipe. Au bout de la sixième, il y a un tir à 10 mètres.
D'accord.
Voilà, si jamais il y a une sixième faute.
Est-ce qu'il y a beaucoup de contestations de l'arbitrage? Parce que c'est assez culturel dans le monde du foot, hein. C'est un sport qu'on adore, mais c'est vrai qu'il y a
Aussi dans le futsal, comme dans tout sport, je pense que l'arbitrage, c'est un métier difficile. Hein. Voilà, parce que vous êtes pris dans le feu de l'action, parce que l'arbitre ne voit pas tout.
Le futsal, c'est ça va vite.
Ça va tellement vite que c'est pour ça qu'ils sont deux. Donc oui, non, c'est pas simple d'être arbitre.
Et quand on marque un but, faut voir s'il est sur la ligne ou pas, ça arrive aussi, ça.
Oui, c'est rare, mais ça arrive, c'est rare. Oui, ça arrive de temps en temps, mais en général, quand il y a but, on le voit vite, quoi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup de grosses blessures?
Oui, bien sûr, ça peut arriver. Des chevilles, des genoux, surtout des genoux pour les changements de rythme, etc. Ou des chocs aussi, ça peut arriver d'avoir des chocs entre adversaires. Ça peut arriver. Oui, il peut y avoir des grosses blessures. Nous, on a eu cette année une grosse blessure, Samba Kébé, qui est avec nous et qui a quasiment pas joué de la saison parce qu'il s'est blessé au genou. Donc il est revenu sur la fin de saison, mais il sera prêt pour la saison prochaine, je pense.
Oui, et puis les carrières, elles durent pareil, 32, 33 ans. Qui ferait que du futsal.
Alors il y a des carrières, il y a des joueurs qui jouent jusqu'à 40 ans. Hein.
40 ans Parce que vu l'intensité des matchs, quand même.
Oui. Alors après, ils n'ont pas le même temps de jeu, hein, évidemment. Oui. Mais ils ont effectivement, si, il y a beaucoup de... Il y en a qui peuvent jouer longtemps, oui.
Et pour les femmes, c'est pareil? C'est le même temps de jeu?
Ah oui, en termes de règles, c'est les mêmes.
La même vitesse d'exécution, la même rapidité?
Ça va effectivement un peu moins vite, mais c'est parce que c'est physiquement. Mais en termes de temps de jeu, oui, c'est pareil. Mm-hmm. C'est pareil, même temps de jeu, même règles. Oui, c'est les mêmes règles.
Alors, quand il y a des buts, vous commentez tout ça, vous?
Je crie.
Ouais, c'est ça.
Enfin, quand il y a des buts pour nous.
Oui, non, mais bien sûr.
Moi, je crie, je crie et j'annonce le buteur. Et voilà, on essaie de mettre la salle.
Alors, on a parlé un tout petit peu du maillot l'heure. Vos couleurs, elles sont vertes et blanches.
Oui, vert et blanc.
À l'image de l'origine du club de foot du passé, quoi.
Oui, tout à fait. Vert et blanc pour les maillots à domicile, rayés. Mm-hmm. C'est des couleurs historiques et qu'on va garder, hein, évidemment.
Il n'y a jamais de changement de maillot. Des fois, ça peut arriver. Si vous avez un maillot aussi, une équipe qui joue un maillot vert aussi, non?
Ah oui, alors oui, on a différents jeux de maillots, de différentes couleurs. On a des maillots à domicile et des maillots extérieurs. On a des maillots noirs, on a des maillots blancs. Mm-hmm. Donc oui, on s'adapte aussi avec les autres équipes, bien sûr. Oui.
Alors justement, je voulais revenir sur les matchs. On se connecte et on peut voir tous vos matchs.
Sur Futsal Zone, oui. Ouais, alors il faut un abonnement.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas gratuit. Je crois que cette saison, c'était 40 euros l'année.
Ouais.
Donc ça faisait pas très cher, ça faisait 4 euros par mois, je crois, un truc comme ça.
Va,
voilà, et vous pouvez voir tous les matchs
du
de futsal.
Du championnat D1 ou même des autres divisions aussi.
Alors il y a que le championnat D1 pour l'instant. Voilà, alors c'est arrivé d'avoir, je sais pas si...
Et des matchs commentés ou...
Oui, des matchs commentés, bien sûr, il y a des commentateurs, etc. Ouais. Et après, c'est arrivé d'avoir l'équipe de France de futsal qui était diffusée sur l'équipe 21, enfin l'équipe TV. Quelquefois pour les grosses échéances.
Et au fait, je n'ai pas demandé, vous, pour rejoindre votre club, votre prix de licence, c'est combien?
Alors, ça dépend des catégories, mais c'est une fourchette entre 150 et 200 euros, je crois. Et puis, vous avez de la licence plus les pactages, vous avez les équipements.
Oui, ça, c'est fourni. Donc,
voilà, tout est fourni dans
à l'année, les pactages sont fournis à l'année.
Les maillots, les t-shirts, le sac, enfin, tout est pris dans le prix de la licence, quoi.
D'accord. Bon, vous restez avec nous. Je pense qu'on va avoir notre ami Stéphane Desenclos au téléphone, celui qui nous fait le coup de cœur, coup de gueule habituel. Mais comme la saison est finie, ben on va plus donc axer sur le mercato. Stéphane, bonsoir. Stéphane, bonsoir. Donc, on n'a pas notre ami Stéphane Desenclos. On va sûrement peut-être le retrouver. En tout cas, vous aimez aussi le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'aime beaucoup le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai que je suis fan depuis toujours.
Stéphane ?
Oui.
Oui, bonsoir. Voilà. J'avais pas la bonne prise comme d'habitude. Voilà. Bon, un petit mot avant de parler du mercato. Je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur le match de la semaine dernière. Hein. Ça finit pratiquement la saison de foot, même s'il reste encore les espoirs qui jouent, même s'il va y avoir les féminines qui vont jouer donc la Coupe du Monde. La France qui a battu la Grèce 1-0. Bon, voilà, les Français ont assuré l'essentiel.
Voilà, tout à fait. Parce que si j'ai bon souvenir, on en parlait hein, juste avant le match. Je vous disais qu'il ne fallait pas s'attendre à de l'extraordinaire. Hein. C'était... C'est le genre de match très compliqué. Je pense que Didier Deschamps doit être vraiment très satisfait d'avoir gagné ce match, même par un petit but d'écart.
Oui, d'autant plus que c'est une des rares années où l'équipe de France n'a pas perdu de match au mois de juin. J'allais dire dans des saisons hors Coupe du Monde ou hors Euro. Hein. On sait que ça ne se passait jamais très bien, donc des années impaires.
Notamment, on se souvient de l'année dernière.
Oui,
On était au bord de la crise. Hein, donc, c'est vrai que là, ça s'est très bien passé. Bon, il n'y a pas eu franchement la manière, mais bon, on en parlait. Hein, y a des joueurs comme Kylian Mbappé qui jouaient plus de 50 matchs, qui étaient à 55 matchs, je crois, dans la saison. On ne peut pas leur demander non plus d'être bon tout le temps. Quoi.
Donc on va rappeler que l'Irlande a battu aussi Gibraltar 3-0, ce qui fait que l'équipe de France, elle est déjà pratiquement, avec les 4 victoires, qualifiée donc pour l'Euro 2024. Hein, elle est en tête avec 12 points, devant la Grèce 2e 6 points, et 3e l'Irlande 3 points, mais un goal average de plus 1, et 4e les Pays-Bas 3 points avec un goal average de moins 1, et 5e donc Gibraltar 0.
Voilà.
Alors, oui Stéphane ?
Oui, j'avais une petite remarque. Je me faisais une petite remarque tout à l'heure, là, quand je vous entendais, je vous écoutais très attentivement. C'était très intéressant.
Ouais.
Et est-ce que vous savez, j'ai appris moi-même il n'y a pas longtemps, mais peut-être vous le saviez, vous, votre invité, que vous parliez de joueurs qui avaient fait la navette entre le foot sale
et
le foot. Et bien, vous savez qu'un certain joueur, ça va vous étonner, a commencé à jouer au foot beaucoup en foot sale.
C'est pareil, non ?
Vous ne trouverez jamais.
C'est pareil, non ?
Un des joueurs les plus connus. Comment ?
C'est pareil ?
Non. Le plus étonnant de tous, pratiquement. Erling Haaland.
Ah bon ? D'accord.
Ah bon ?
Ah bon ? Voilà. Ah bah c'est bien.
Erling Haaland a commencé à jouer à ses débuts en Norvège, jouait beaucoup plus en futsal qu'en foot. Qu'en foot normal, on va dire.
D'accord, ok, voilà. Plein de bonnes infos. C'est vrai que Ronaldinho, on savait, bon, Rai, je pense pas, mais enfin, bon, peut-être qu'au Brésil. Neymar aussi, peut-être un peu. Enfin, voilà. Bon, voilà pour la fin de saison de foot. Bon, il reste les espoirs français qui vont peut-être nous réserver une bonne surprise.
Ouais, écoutez, pour le coup, en tout cas, pour ma part, ce serait effectivement une surprise. Pour avoir vu les deux matchs, mais bon,
c'est pas terrible.
Pour le français, hein, quand on voit le modèle, notamment par Didier Deschamps, si on se rappelle l'équipe de France, par exemple, lors du premier tour à la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que tout peut arriver. Il y a les joueurs. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a fait jouer quasiment deux équipes différentes. À la surprise générale, je pense, franchement, ça a surpris beaucoup de monde. Il a pratiquement aligné deux équipes différentes, puisqu'il y avait 7 changements entre la première et le premier et le deuxième match. Et finalement, il y a quand même 2 victoires malgré tout.
Mais enfin, il faut se qualifier pour les Jeux. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ouais,
Eh oui.
Il faut être dans les 4 premiers, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est important. Hein. Il faut se qualifier pour les Jeux 2024. Hein.
Voilà, tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mbappé,
Varane,
Griezmann, Lehmann, Loris qui pourraient jouer, mais bon, si on n'est pas qualifié, ouais. on est mal.
Et on sait que par expérience, ces dernières années, ça s'est très, ça s'est jamais très bien passé pour nos équipes de France espoir. On va saluer Eladji, ça va Eladji.
Salut, ça va toi.
T'as vu les espoirs, toi?
J'ai vu les espoirs.
Ah, tu regardes tout, c'est fabuleux.
Je regarde tout, ouais. Ouais, bon, ouais. Dans le jeu, c'était pas fameux.
Bah non. Bah
mais
non.
On va dire que c'est le résultat qui compte. Hein. C'est un
peu, pour l'instant, bon.
C'est à l'image de l'équipe première, un peu.
Ouais. Et puis l'équipe de France, bon, qui a fait l'essentiel, mais enfin, elle est pratiquement qualifiée pour la phase finale de l'Euro. Bon, alors Stéphane, maintenant, l'actu de la planète foot, ce sont les premiers mercato, entraîneurs et joueurs.
Ouais, ouais, entraîneurs et joueurs, bah, on peut pas dire que... On peut pas dire que ça soit d'une grande activité ou que ça soit vraiment hyper excitant pour l'instant, en tout cas en Ligue 1, même quoi partout, en tout cas en France, quoi. Ça commence tout très très doucement, à l'image de effectivement ce mercato des entraîneurs. Tout a l'air très très compliqué. Je me plaignais un peu la semaine dernière, lundi, là, de ces clubs qui, mais je continue, hein, qui tardent à trouver leur coach. Pour moi, c'est quand même la base d'une grande saison. Donc, bon, Marseille a officialisé tardivement, mais officialisé. Bon, Enrique, pour le Paris Saint-Germain, peut-être, on peut espérer qu'ils sont déjà en train de travailler sur le recrutement, mais c'est pas encore officiel. Monaco a pas d'entraîneur, Nice n'a pas d'entraîneur. C'est quand même, tout ça est un peu quand même, je trouve que c'est pas très sérieux, quoi. Dans les autres grands championnats, vous avez pas ça dans les équipes qui sont censées, en tout cas, jouer les premiers rôles, qu'on cette ambition. Donc déjà,
ça s'explique comment ça? La Ligue 1 n'attire pas, Stéphane?
Non, je pense pas. Ça, je pense que c'est un vrai.
Non, je blague.
Ouais. Non, ça, je pense que c'est un faux discours, mais c'est que je sais pas pourquoi tout est compliqué, tout se complique. Regardez, je vous donne un exemple tout bête, quoi. Au Bayern Munich, par exemple, ils ont donc décidé, tort ou raison, je commente pas, de se séparer de leur entraîneur, Nagelsmann. Ils ont décidé de prendre Thomas Tuchel. Et on apprenait il y a un mois que Nagelsmann était toujours au club. Quand t'es en France, t'apprends, tu dis le club doit d'abord se séparer de Christophe Galtier avant d'officialiser la venue de Henry. Moi, j'avoue, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui savent. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a club qui a de l'argent, qui a les moyens, qui a tout. Alors, apparemment, ils discutent sur le staff, sur la composition du staff, des choses comme ça, des petits détails et tout. Bon, j'espère surtout qu'ils travaillent sur la préparation de la saison, parce que les matchs de Ligue des Champions, pour le Paris Saint-Germain notamment, comme pour l'OM d'ailleurs, hein, comme pour Lens.
Ah bah l'OM, c'est même plus tôt. Hein. L'OM, c'est même plus tôt. Il faut jouer le tour préliminaire. Hein. Donc,
tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça se prépare maintenant. Bah, tu as une équipe, le choix de tes joueurs, ton coach, là déjà que tu sais maintenant que ça se prépare. Moi, on ne sait pas exactement. À Paris, on ne sait même pas qui va vraiment. Diriger le mercato. Enfin, on entend que Campos pourrait être écarté, mais bon, pour l'instant, on n'en sait bien pas plus. Alors, j'espère qu'au moins eux, ils le savent, quoi.
Alors, ça tombe bien parce que notre invité, il est fan du PSG, comme d'ailleurs était notre premier invité, hein, la personne du surf. Une petite réaction sur ce que vient de dire Stéphane.
Non, mais il a raison.
Ça bouge pas quand même.
Ça bouge pas. C'est
bon, Lucas Hernandez peut-être.
Ouais. Mais non, effectivement, cette année, ça a été très compliqué. Ils font leur leur mercato. C'est un peu à l'image de la saison, c'est-à-dire qu'on est un peu. Moi, je dois reconnaître que on est dans le flou et puis je pense qu'ils sont en train de perdre les supporters les plus anciens, quoi.
Ah bon?
Ouais, moi je pense que là le Paris Saint-Germain, en fonctionnant comme ça. Il va y avoir un vrai désamour entre les anciens, les vrais.
Parce que vous êtes supporter du PSG depuis quand?
Bah depuis toujours.
Ouais, depuis toujours.
Moi, j'étais au Parc des Princes à l'âge de 6 ans, la première fois. Et en fait, je dois reconnaître que en fait, plus les années passent dernièrement, plus j'ai moins envie de les aimer. Voilà, parce qu'il se passe des choses qui leur politique ne me plaît plus, donc. Voilà, j'espère que voilà, je suis très content du départ de Messi. J'espère que Neymar va suivre aussi, parce que voilà, Neymar il fait n'importe quoi. Donc il a pas.
Avec Enrique, ça a été un peu plus compliqué.
Bah oui, parce qu'ils sont potes, alors forcément ça va être compliqué. Alors j'espère qu'il va réussir à, soit le remotiver, soit.
Elle a dit les transferts, toi qui bouge pas là.
Les transferts.
Ouais, enfin qui bouge pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah déjà, sur le point des entraîneurs, moi je pense que voilà, maintenant les présidents ou les clubs sont beaucoup plus sélectifs. On a vu le nombre d'entraîneurs qui ont été limogés la saison passée, et je pense qu'ils n'ont pas envie de refaire les mêmes erreurs. Du coup, ils sont très sélectifs sur les entraîneurs, c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est vrai que de l'autre côté, bah, ça peine un peu, en tout cas c'est pénalisant pour les clubs qui veulent jouer un rôle important sur les prochaines saisons. Et après, niveau PSG... Neymar, moi je pense que maintenant que Messi est parti, je pense que ça ira beaucoup mieux pour lui, je pense. Et franchement, voilà, je suis d'accord, hein, quand Neymar, il se blesse tout le temps pour aller au Brésil, pour l'anniversaire de sa sœur, etc. etc. Je suis d'accord avec tout ça, mais tout le monde a commencé à critiquer Neymar et dire que sans lui, ça joue beaucoup mieux. C'est faux, c'est totalement faux et on l'a vu. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu. En tout cas, on disait que le duo Messi-Mbappé, ça allait beaucoup mieux, etc. C'est faux. Dans le jeu, c'était très pauvre. Il n'y avait pas de transition, il n'y avait pas de truc. Il apporte quelque chose malgré que...
Oui, quand il joue.
Quand il joue. Même, j'ai envie de te dire, même des fois, quand il ne joue pas, il est sur le terrain, sur quelques petites étincelles, il apporte quelque chose. Tu vois, un bon ballon en profondeur à Mbappé, c'est parti, voilà. Moi, je pense que maintenant, on doit essayer de se structurer mieux que ça. Mbappé, il va partir. Voilà, la meilleure solution, c'est de le vendre. Il va partir cette année. En tout cas, si le PSG veulent vraiment garder leur public et ils se disent on change de philosophie, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus du club, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Mbappé, il dit qu'il ne veut pas prolonger, au revoir. Il doit être vendu. On ne peut pas s'asseoir sur 200 millions. On l'adore, c'est quelqu'un du club, c'est un enfant né, c'est un titi parisien, tout ce que vous voulez, ok. Mais franchement... là maintenant il doit partir. S'il veut pas, il a dit officiellement qu'il ne voulait pas prolonger. On va pas le laisser partir libre, non. On le paye déjà une blinde, on va pas le laisser partir libre. Voilà, on va essayer de récupérer ce qu'il a récupéré, et je pense qu'ils vont le vendre. C'est clair, net et précis. Moi en tout cas, j'ai même plus de doute là-dessus. Pour moi, cette page là elle est tournée.
Et qui va l'acheter
Le Real Madrid.
Ils vont attendre un an, t'inquiète pas.
Non, ils vont l'acheter maintenant. Non, mais ils vont l'acheter maintenant. Oh, ils sont pas à un euro près. Florentino Pérez gère très bien les dépenses, contrairement au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez, en tout cas, c'est l'un des meilleurs présidents de tous les temps, et il gère très très bien son argent. Et depuis déjà 2 ans, il pouvait l'acheter. Crois-moi, les 200 millions, ils sont prêts. Là, en plus, avec Benzema qui est parti, etc., les salaires qui se libèrent, crois-moi, 200 millions sur Mbappé, il va le payer tout de suite. T'en fais pas. Surtout qu'il n'a pas d'attaquant maintenant.
Oui, c'est vrai.
Il est obligé.
Bon, Stéphane, vous qui avez toujours des bons tuyaux, vous en pensez quoi?
Sans avoir les mêmes arguments, je pense effectivement qu'il faut que le feuilleton Mbappé s'arrête.
Ah ouais.
Je pense comme où on est 100% d'accord ensemble avec elle a dit, c'est que moi je pense que ça serait, je vais même dire que ça serait une catastrophe pour le PSG de laisser partir Neymar. Je pense que Neymar, on oublie vite que c'est un des plus grands joueurs du monde. Il a été blessé, alors on lui en veut. Il y a un supporter, moi je suis aussi personnellement, j'ai jamais hésité à le dire, hein, c'est connu ici sur cette radio, je suis un grand supporter du PSG.
Mais des journalistes aussi.
J'étais aussi à l'âge de 10 ans au Parc des Princes.
Bah oui.
Et moi je suis hyper agacé par effectivement la gestion actuelle du club, et je trouve qu'ils font n'importe quoi. Et personnellement, par exemple, j'aurais fait exactement le contraire, quoi. J'aurais donné toute la confiance, tout l'amour, tout ce que je peux à Neymar, parce que je sais que c'est sur lui que peut reposer l'équipe, le talent de l'équipe. Donc maintenant, après, effectivement, s'il est blessé, notamment la dernière blessure, là, sur les dernières années, Neymar, il a jamais rien fait. Je pense qu'on peut lui reprocher aucun comportement sur les 12 derniers mois, sur la dernière saison, en tout cas, à Neymar. Si ce n'est, comme le disait Ladji, regardez les chiffres du Paris Saint-Germain. Je m'adresse directement à la personne qui ose souhaiter le départ de Neymar. Bah, regardez le comportement du PSG avec Neymar et regardez le comportement du PSG sans Neymar, cette année par exemple. Et c'est du simple au double, c'est hallucinant. Regardez le comportement de l'équipe nationale du Brésil avec Neymar et regarder le comportement sans Neymar.
Après, excuse-moi Stéphane de te couper, après on n'a pas le même Neymar au PSG qu'au Brésil. Ça, voilà, c'est une petite parenthèse, mais voilà. On aurait aimé là, avoir le même Neymar au Brésil qu'au PSG, mais on n'a pas le même du tout. C'est une transformation. Quand il arrive au Brésil, c'est le Neymar de Santos, ne sais où, mais pas du PSG.
Justement, non, mais tu as tout à fait raison de dire ça, tu as raison. Le but, c'est de faire en sorte d'être assez fort au niveau du management. Je pense que quelqu'un comme Luis Enrique est assez fort pour faire ça, au niveau de la présidence, au niveau de tout ça, pour essayer de faire en sorte qu'on ait le même Neymar. C'est-à-dire que le talent, il est là. Et moi, je pense d'ailleurs, avant la Coupe du Monde, l'exemple, il est là. Avant la Coupe du Monde, alors motivé par la Coupe du Monde, si on veut, et uniquement comme tout le monde aime à le répéter, mais en tout cas, avant la Coupe du Monde, on a quasiment eu le même Neymar, quoi. Ses stats, elles sont affolantes. L'équipe jouait d'une manière souvent, quoi, qui a très bien joué à plusieurs matchs menés par Neymar. Et je pense qu'on a là quelqu'un pour qui il faut, quoi. Moi, c'est mon point de vue. Il faudrait plutôt faire quelque chose et miser sur lui que de faire le laisser tout seul, le laisser un peu errer, et puis le laisser penser qu'on a envie de s'en débarrasser. Mmh. De toute façon, je pense pas qu'il partira. Il va pouvoir rejouer avant septembre, octobre, dit-on. Il y en a même qui vont encore plus loin. Son meilleur niveau, il l'aura pour le mois de janvier. Ils le vendront pas à moins quand même de 70-80 millions. Je pense pas que un club va.
Il voudra pas partir. En fait, il veut même pas partir. Du coup, ils vont pas le vendre. Et surtout que Mbappé va partir. Du coup, faire partir les trois d'un coup.
Je suis naïf et c'est vrai que c'est enregistré. Je suis naïf. Je ne peux pas croire une seule seconde que le Real Madrid va mettre 200 millions sur la table pour acheter Mbappé. Je n'arrive pas à croire.
On en reparle vers mi-juillet. Ça sera confirmé. On en reparle d'ici 2-3 semaines.
J'arrive pas, je dis pas du tout que j'ai raison, mais je n'arrive pas.
Non,
à
bien
croire.
Sûr. Ouais.
Maintenant, après 100 millions, ils le mettraient, ce qui serait déjà bien. 100 millions, le Qatar, ils en ont rien à foutre de 100 millions. Ils vont pas brader Mbappé pour 100 millions. Donc ce qui pourrait me laisser.
Pour un an de contrat, le laisser partir gratuitement, ils gagneront même pas 100 millions. Et combien ils le payent aussi, Mbappé? Il y a ça qui compte aussi. Il est censé prendre une prime de 150 millions. Du coup, si tu décomptes les 150 millions de primes qu'ils lui donnent pas, et en plus de ça, tu renfloues avec 150-200 millions.
Ouais, non, mais là, c'est tout à fait raison. Mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à croire. Moi, on me dit aujourd'hui, moi, j'aurais tendance, j'ai pour le journal Le Foot, là, je viens d'écrire une sorte un peu d'édito là-dessus. Le titre, c'est Mbappé, 200 millions ou rien. Je pense qu'effectivement, oui, 200 millions, il faut qu'il parte. En plus, tu as l'argent à côté. Encore faut-il croiser les doigts, espérer qu'il sera bien utilisé, cet argent. Quand je vois qu'il ça risque d'être de se couper les discussions avec Manchester City parce qu'il demande trop pour Bernardo Silva, j'ai un peu peur, quoi. Parce que donc moi, on m'a toujours dit que les joueurs, ils l'ont fait, le Paris Saint-Germain, avec des joueurs avant. Quand tu veux vraiment un joueur et que tu penses qu'il peut faire gagner ton équipe, il faut mettre le paquet. Et je pense pas que tu dois renoncer à lui pour 10 ou 15 millions, quoi. Voilà, la même chose pour Mbappé. Maintenant, c'est une situation très compliquée. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand tu as signé un contrat qui dure jusqu'à 2024, tu dis officiellement, je vais jouer jusqu'à 2024, la fin de mon contrat. On n'a pas le droit de t'insulter, de te critiquer. J'ai entendu des consultants qui disaient « Ah, faut plus qu'il joue du tout ». Moi, j'avais eu la même position.
Il n'y a personne qui peut faire ça. Aujourd'hui, aucun club ne peut avoir Mbappé dans son effectif et faire comme Rabiot, le mettre, ou Ben Arfa, le mettre dans la réserve. Rabiot, c'est impossible.
Rabiot, on parlait de… La discussion, elle avait beaucoup été à l'ordre du jour pour Ousmane Dembélé avant qu'il prolonge avec…
Le Barcelone, avec même le Barcelone ne seront jamais… Bah, Xavi le disait, il disait que ce n'est pas possible. Ouais. Même s'il ne prolonge pas, ils ne le mettront pas sur le banc aussi. Mais c'est pas possible.
C'est une position qui est ridicule, quoi. Je veux dire, ils avaient tous les cartes en main. Tout le monde avait les cartes en main l'année dernière quand il a signé son contrat. Tout le monde avait les cartes en main. Je pense pas que Kylian Mbappé a dit bon, on va dire ça, mais c'est sûr et certain, je vais prolonger, quoi. Il a pas dit ça. Donc si ça a été mis comme ça, il était libre au mois de mai l'année dernière, il pouvait partir libre. Ils ont fait un tel contrat qu'il a la possibilité de le faire encore dans un an. Je veux dire, à ce moment-là, fallait jouer carte sur table. Et si on est d'accord, si tu prolonges pas, tu quittes le club. Oui, on sera d'accord pour te laisser partir. Et ceci, si tu pour avoir de l'argent et arrêter d'être dans cette espèce de je trouve de feuilleton qui pour moi est ridicule, qui est ridicule. Mais encore une fois, effectivement, on en reparle en juillet. Aujourd'hui, je serai tout est possible dans le foot, mais voir le Real Madrid mettre 200 millions sur un mec qu'ils ont.
Il y a le numéro 9 qui l'attend.
Ouais. Il y a 200 millions sur un mec qui peut avoir gratuit dans 6 mois. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est dit et n'importe quoi. C'est aujourd'hui la mouvance du côté de l'Espagne, où plusieurs médias espagnols disent le Real Madrid décide de ne pas bouger. Et Pérez, justement, et là, quand tu dis que c'est un des plus grands présidents de foot, tu as 100% raison. Et ça serait quand même très étonnant qu'un des plus grands présidents de foot de l'histoire mette 200 millions au mois de juin pour acheter un mec qui pourra faire signer gratuitement au mois de janvier.
Pour renouer les liens. Moi, je pense que c'est pour renouer les liens aussi avec le PSG, une relation qui est cassée aujourd'hui. Je pense que s'il l'achète demain à peu près 200 millions, 150 millions avec des bonus, etc., du moins il s'arrange comme ça et qu'il ne le prenne pas libre. Sinon, ça va casser un réel truc entre le PSG et le Real Madrid qui avait une bonne entente jusque-là. Du coup, moi, je pense qu'il pourrait le faire par rapport à ça, mais pas juste par rapport à l'argent, tout ça. Sinon, je pense qu'il l'aurait acheté dans
N'oublions pas, en cas de départ, n'oublions pas la piste Manchester United pour Kylian Mbappé.
Milan.
Faut surveiller ça de près. Surtout si le Qatar achète à gain de cause et finit par être propriétaire de Manchester, ça sera une très très forte possibilité. Et ils sont capables, comme ils ont fait pour Rabiot, de faire un coup de vis aussi, de dire à Mbappé, tu vas partir, on va te vendre. Mais quoi, est-ce que c'est possible après qu'il accepte? J'en sais rien. Mais ça sera pas au Real, ça sera à Manchester.
Très bien. Donc ça veut dire, Stéphane, que pour finir, hein, que ça va bouger dans les premières, dans les prochaines semaines, plus que ces premiers jours.
Ouais, faut espérer quand même pour tous les clubs. Hein, quand on voit le travail qu'il y a à faire à Marseille, quand on voit l'échec cuisant de l'OL cette saison, quand on voit la catastrophe de Monaco sur les derniers mois. Et quand on voit l'état du Paris Saint-Germain, pour ne citer que, je parle pas d'autres clubs, c'est évident que faut espérer pour eux que ça va bouger, hein, parce que sinon, on est mal parti pour notre Ligue 1.
Très bien parti. Mais l'Arabie Saoudite, par contre, je voulais juste faire une petite
franchement, c'est pas le même niveau.
Même niveau du tout, mais. La saison prochaine, moi, j'ai envie de savoir, je sais pas, Stéphane, si t'as un tuyau ou quoi, j'ai envie de savoir sur quelle chaîne on peut suivre le championnat saoudien. Bah, avec tous les joueurs qui y vont maintenant, là...
Ça donne envie.
Franchement, ça donne envie. Et Cristiano Ronaldo a amené
Je crois qu'il ne faut pas encore... ça, c'est une question intéressante que je me demande si se sont déjà positionnés les clubs pour la bagarre des droits télé. J'attends peut-être de voir effectivement ce qui va se concrétiser, mais c'est clair que... Et puis, je vois pas... moi, je suis un peu agacé. Bon, c'est sûr qu'ils détruisent la concurrence en proposant des sommes hallucinantes et tout, mais je vois pas pourquoi... on interdirait à l'Arabie Saoudite de devenir un championnat référence, un grand championnat avec des joueurs, pas que des retraités, puisque c'est une info que je trouve les plus marquantes de la semaine, c'est Seko Fofana qui a ouvert les négociations avec le club de alors je sais pas bien comment on prononce, Al Nasser, le club de Ronaldo, quoi.
Al Nasser, ouais.
Il a 28 ans, il pourrait partir là-bas, donc ça serait encore plus la porte ouverte à plein de bonnes choses, quoi. Donc c'est sûr que là, ça calme. On l'a, l'exemple typique, on l'a, le symbole de ça, c'est Bernardo Silva. Hein. Bernardo Silva, il était tout proche du PSG. Bon, il est encore peut-être pas très loin, mais il était tout proche. Manchester City monte l'offre et veut le faire prolonger, bien sûr, c'est leur souhait numéro un. Mais ils ont à côté une énorme proposition pour de la part de l'Arabie Saoudite. Donc, ils peuvent aussi dire que s'il n'accepte pas de prolonger, ils vont accepter l'offre de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une sorte de pression, de choses qui va forcément. Mais bon, le Paris Saint-Germain avec le Qatar et ses millions, Manchester City dans le passé, United, quoi, les clubs anglais ont joué aussi à ça longtemps, hein, en pouvant en proposer trois fois plus que n'importe qui pour des joueurs. Hein.
Très bien, merci Stéphane, et puis rendez-vous donc la semaine prochaine, et puis je suppose beaucoup de mercato cette semaine dans le quotidien du sport.
Ouais, tout à fait, beaucoup, là, ça a commencé, hein. Il devrait y avoir des officialisations, on espère, en tout cas à partir du 1er juillet au moins.
Eh ben, vous nous annoncerez tout ça la semaine prochaine. Merci en tout cas, Stéphane. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, juste un petit mot. Le Paris FC, le Paris Atlético, Paris Basket, le Paris Volley, ils viennent pas voir vos matchs?
Non, je crois pas. Et c'est pareil, c'est réciproque. On est alors, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on est très pris et qu'il y a beaucoup de voilà. On a nos entraînements, on a nos matchs, et puis chaque club effectivement est aussi a aussi ses obligations. Donc, mais après on s'entend bien, il n'y a pas de problème, c'est juste que voilà.
Merci donc pour votre venue. Si on peut venir vous rejoindre, on l'a dit, dès le forum
bien sûr,
dès le mois de septembre, si on veut rejoindre votre club,
avec plaisir.
Et sinon, il y a les Facebook, il y a les réseaux sociaux,
Facebook, Instagram, Sporting Club de Paris, et puis et puis voilà.
Elle a dit le foot là, donc de je Paris connais. 13. Ouais, oui, tu connais, je sais bien. C'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Ouais. Merci en tout cas.
Merci, merci à vous de m'avoir invité en tout cas.
Ça a été un plaisir. Merci à Jason. Merci donc à Guy pour la mise en main de cette émission. On finit, cette époque, Jean-François Maurice, 28 degrés à l'ombre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Allez, bonne soirée à tous et à toutes et bonne semaine sur Mon Paris FM. Salut.
Au revoir.
Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
fait